À l'occasion de la fête de Hanouka, les Chachamim nous ont
dit Valadissim, Valapurkan, Valagevurot, Valateshuot, Valamilchavot.
Et on cite comme ça la reconnaissance qu'on doit avoir pour tous les miracles et tous les prodiges qui arrivent, qui sont arrivés dans cette période-là, dans ces jours-là. Alors maintenant, je demande les commentaires. Pourquoi est-ce que cette notion-là de Askara, de mentionner ce miracle, on mentionne pour Rosh Chodesh, on mentionne pour Chol HaMoed, Sukkot et Pessah, on aurait dû dire à ce moment-là à la Nissim. Parce que ça, c'est l'endroit qui est spécialement pour rappeler les moments qui sont importants dans l'année. Alors pourquoi est-ce que les Chachamim ont mis cette mention-là juste après Modim? Alors pour essayer de comprendre ça, il y a une Mara dans Shabbat d'Afkafalev, elle dit comme ça. Amar Rav Kahana, Darash Rav Natan bar Minyomi Mishmei de Rabbi Tanchum. Ner shel Chanukah she'inicha lema'ala mi'eskimama psula. Si quelqu'un a mis la Chanukia, le ner de Chanukah, il la met plus haut que 20 amot. Comme la Souka, ouais, quelqu'un qui a mis plus haut que 20 amot, c'est-à-dire plus haut que 10 mètres, c'est pas soul, c'est pas kasher. Il n'a pas accompli la mitzvah de Chanukah. Et après, c'est marqué Va'amar Rav Kahana, Daraj Rav Natan Mishmei, Raminomi Mishmei de Rav Nachum. Exactement le même Rav, au nom du même Rav. Alors il amène une autre dracha qui n'a rien à voir. Il dit Ve'abor Rek en Bomaim. C'est ce qu'on a lu dans la paracha de cette semaine, que le puits était vide, que quand les frères de Yosef ont jeté Yosef dans le puits était vide. Alors c'est écrit dans la Torah Ve'abor Rek en Bomaim. Le puits était vide et il n'y avait pas d'eau. Alors ils disent les chachamim, mais de toute façon, s'il était vide, on a compris qu'il n'y avait pas d'eau. Alors la dracha, c'est quoi? Enbo, maïm enbo, il n'y avait pas d'eau. Aval les chachim, les chachim yeshbo, mais il y avait des scorpions et des serpents à l'intérieur. Maintenant, ils demandent des commentaires. Bon, on a compris que ces deux drachotes, elles viennent du même rave. Oui? Mais pourquoi on les a superposées? Pourquoi on les a mis ici, dans la Gemara? Maintenant, il n'y a rien à voir. Ça, c'est un problème. Qu'une chanoukia qui est plus haut de 10 mètres, elle n'est pas cachère. On n'a pas accompli la mitzvah. Et ça, c'est une dracha qui n'a rien à voir que Yosef HaTzadik. Bon, il est tombé dans un puits, il n'y avait pas d'eau, mais il y avait des scorpions. C'est bizarre. Quel rapport entre les deux? Pourquoi on les a ramenés? Alors, il y a un midrash rabba qui dit la chose suivante. Chez Kacher Shav Yosef HaTzadik, Mikvurat Yaakov Avinu Alav Shalom. Lorsque Yosef, il est revenu de l'enterrement de Yaakov. Vous savez tous que Yaakov, il a été vivre en Égypte avec toute sa famille. Un jour, il est niftar Yaakov. Maintenant, Yosef, il a été chargé de l'enterrement de Yaakov. Il est parti en Canaan pour enterrer Yaakov. Quand il est revenu en Égypte, il s'est arrêté le puits où il avait été jeté. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est marqué là-bas? Itzitz Bevor, il a regardé dans le puits, chez Ushlach Letocho, dans lequel il avait été jeté, qui est délévaré pour faire la bracha baruch chez Asalin Nes Bamakom Azé. Il y a une bracha. Puis quand quelqu'un repasse devant un endroit où il a eu, chas v'shalom, un accident ou quelque chose, alors il y a une bracha à faire, que Hachem m'a fait un miracle à cet endroit-là. Maintenant, lui, comme il est repassé devant le puits dans lequel ses frères l'avaient jeté, alors il s'est arrêté pour faire la bracha. Maintenant, il remarque les commentaires dans le Midrash. Pourquoi c'est marqué « Itzitz Bebor » ? Il a regardé dans le puits, ouais, il a regardé dans le puits dans lequel il avait été jeté, et il a fait la bracha. Shasalis nes bamakom azé. Il demande le Meshech Chochma. Il dit, mais le principal du miracle, c'est quoi? C'est qu'il a été sorti du puits. Oui. Donc il n'avait pas besoin de regarder dedans. Bamakom azé, c'est cet endroit-là. C'est à cet endroit-là que ça s'est passé. Oui. Donc il aurait pu regarder le puits et faire la bracha. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est approché. Il a regardé Itzitz Betor à bord. Pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de regarder à l'intérieur du bord pour pouvoir faire la bracha? Pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de regarder à l'intérieur du puits? Alors là, le Drash David, il donne une explication, et ça va être la base un petit peu de ce cours. Il dit comme ça, venir et qui shoresh advarim ou, il semble que la racine de la chose soit ma'alat itbonenut bechazde Hashem itbarach. La valeur de la itbonenut, de la réflexion, bechazde Hashem, sur les bontés d'Hashem, ou benissav atmidiim, et sur les miracles permanents, oui, courants, qu'il fait, que Mahamar Akatoub, comme il dit les versets, Mihacham Veishmor Ele, qui est le sage, celui qui garde cela, Veitbonenu Chasde Hashem, et qui va réfléchir sur les bontés d'Hashem. Alors il dit, Itbonenu Chasde Hashem Itbarach, la réflexion sur les bontés d'Hashem et sur ses miracles, Aglouim, les Enakol, pour les miracles qui arrivent aux yeux de tous, mais via les akara be ashgachat itbarach ba'olam. C'est ce qui permet de percevoir l'intervention d'Hachem dans le monde. Notre expo, c'est quoi cette notion? Alors il y a un Ramban qui fait un peu peur, mais c'est pas grave, c'est la vérité, c'est le prix de la vérité. Il dit comme ça le Ramban: Minanissim agdolim ameforsamim. Parmi les miracles, les grands miracles qui sont dévoilés, Adam modé benissim anistarim. Un homme, il doit être capable de reconnaître les miracles qui sont cachés. Shehem yesod la Torah kula, qui sont en vérité le fondement de toute la Torah. Parce que pour qu'un homme il ait une part dans Torah de Moshe, ouais, c'est qu'il ait une part dans la Torah de Moshe Rabbeinu, il faut qu'il ait la Emouna dans tout ce qui nous arrive, ouais, que tout ce qui nous arrive est miracle. Il n'y a pas du tout de nature et il n'y a pas du tout d'habitude du monde. Ça, c'est comme ça, c'est le langage du Rambal. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quand c'est marqué ici, mi chacham beishmor ele, qui c'est le sage qui est capable de garder cela? On sait, chokma, c'est quoi la chokma? La sagesse, c'est la capacité de comprendre la réalité, de percevoir le fond des choses. Beishmor ele, c'est quoi? Quelqu'un qui va être capable de garder cela? On a déjà expliqué à propos de Pessah, à propos de Shabbat, que quand on parle de matzot shmurot, ouais, on parle de quelqu'un qui est shomer Shabbat. C'est quoi shomer Shabbat? Tu gardes le Shabbat, quoi? Le Shabbat, il va s'enfuir. Quand c'est marqué Zachor Veshamor, Zachor Veshamor, Zachor c'est de mentionner le Shabbat, et Shamor c'est quoi? C'est d'avoir la Yirat Shamaï, de faire les halakhot comme il faut. Parce que le Shabbat, en 3 secondes, il s'envole. Ouais. Tu allumes la lumière, hop, tu prends les épines dans le poisson, hop, c'est fini. D'accord? J'ai écrit une petite lettre, rien du tout. Pour ce Shabbat, c'est quelque chose de fragile. Donc il faut être chômeur le Shabbat. C'est-à-dire quelqu'un, il doit être dans une dynamique, une vigilance dynamique, de permettre de sauvegarder le Shabbat. Comme le shalom. Le shalom dans une maison, c'est facile. Un malentendu, un mot de travers, une tête bizarre, une remarque, un pic, et paf, ça explose. Tu crois, mais comment c'est possible? 20 ans de mariage, on peut pas avoir un peu la paix? Non! Faut être chômeur, le shalom. Le shalom, c'est quelque chose de très volatile. C'est comme du gaz. Ça peut exploser n'importe quand. Donc quelqu'un, il doit être perpétuellement dans cette notion. Et ça s'appelle l'ishmor. Et maintenant ici, c'est marqué, mi chacham ve ishmor ele. Il dit ve'id bonenu bechazdi Hashem. Alors c'est quoi l'id bonen? C'est quoi l'id bonen? On traduit normalement réfléchir. L'id bonen. Ouais, ça vient de tvuna. Ouais, mais ça vient aussi de bonen. C'est quoi l'id bonen? C'est réfléchir. Mais l'archov aussi, c'est réfléchir. Penser. Maintenant, il y a différentes natures de pensée. Maintenant, quand quelqu'un il pense à quelque chose parce qu'une réalité le fait réagir, d'accord? Alors ça s'appelle une réflexion. Mais quand quelqu'un il est l'id bonen, ça vient de bonnet. Et bonnet, ça veut dire que la réflexion, elle est construite. D'accord? C'est comme j'ai dit à quelqu'un, voilà, à partir de maintenant, fais attention. Elle dit, bon, c'est bon, je vais y penser, j'ai réfléchi, c'est bon. Non, t'as pas compris. Je veux que tu sois bonnet. Je veux que tu sois mis de bonnet. C'est-à-dire que je veux que tu construises un raisonnement. Ouais? Tu réfléchis. Comment ça s'est passé? D'où est-ce que ça vient? Comment je vais faire pour éviter que ça arrive? Quel rapport c'est avec moi? Comment je peux faire pour le construire, pour le maîtriser, pour l'analyser? Ça s'appelle être bonnet. Les id bonen, ouais, c'est pas réfléchir. Les id bonen, c'est construire. Construire un raisonnement, construire un mode parallèle à l'intérieur de moi-même. Et cette id bonenout, c'est ce qui fait que moi j'ai acquis la chose. On a déjà expliqué dans ce cours que plusieurs fois les gens ils vivent sans réfléchir. Ils vivent sans réfléchir. Ils attendent que la vie les oblige à réfléchir. Maintenant que la femme elle est partie de la maison, le gars il réfléchit. Qu'est-ce que j'ai pas fait de bien? Maintenant qu'il a un problème avec l'enfant, il réfléchit. Maintenant qu'il a un problème de contrôle fiscal, il réfléchit. Est-ce qu'il doit avoir une comptabilité? Ouais. Mais pourquoi? Pourquoi les gens réfléchissent après? Ça veut dire que jusqu'à maintenant ils réfléchissaient pas. Ça veut dire ça s'appelle id bonenout. Id bonenout, c'est que tu dois avoir un raisonnement, une réflexion qui est construite. Ouais, que tu peux la démontrer, tu peux la démonter, tu peux la remonter. Ça veut dire qu'elle tient la route. Mais si tu penses, ça va, c'est bon, chim. Moi, écoute, tu sais quoi, je vais y penser. Bon, d'accord, maintenant, je l'ai en tête. Non, c'est pas de l'avoir en tête. Parce que l'avoir en tête, c'est juste une forme de réaction. C'est un peu comme un regesh, un sentiment. Mais au lieu que ça soit un sentiment émotionnel, c'est un sentiment intellectuel. D'accord? Tu sais quoi, ça m'a fait réagir. Ouais, tu m'as parlé, ça m'a fait comprendre quelque chose. D'accord. Ça, c'est quoi? C'est comme si t'as regardé la télé et t'as vu un choc. Oh, t'as vu, t'es pas devenu intelligent. Ouais, mais t'as été touché. Ici, c'est marqué que Ishit Bonenu, Bechazde Hashem. C'est-à-dire, quelqu'un, il ne doit pas dire, Baruch Hashem, merci Hashem, ça ne suffit pas. Il faut que tu réfléchis à la complexité, à la richesse, à la puissance, à la finesse de la bonté d'Hashem. Oui. Ça s'appelle mi chacham v'ishmor ele, quelqu'un qui va bien réfléchir que c'était finalement, mais Baruch Hashem, c'est arrivé au bon moment, c'était le bon médecin, mais heureusement qu'il y avait quelqu'un à la maison, heureusement qu'on a réagi rapidement, heureusement, à la fin, quand tu fais la liste, tu dis, mais c'est pas possible. C'est-à-dire, même le malheur, il a quelque chose de bon qu'il est arrivé au bon moment. Parce que le même malheur, il aurait pu se passer, et bien il n'y avait personne. Là-bas, l'urgence, elle a mis, l'ambulance, elle a mis un quart d'heure, le gars, il est mort. Et là, il a chamaï, l'ambulance, elle était venue pour un autre problème chez le voisin d'en face. Donc le gars, ils ont réussi à lui faire le truc tout de suite, ils ont fait la piqûre, au Hachem, ils l'ont calmé, l'arrêt cardiaque, ils l'ont sauvé. D'accord ? Celui-là, il a fait une radio parce qu'il avait mal au ventre, on a trouvé qu'il avait la tumeur, on lui a enlevé. La tumeur, il l'aurait trouvée dans 2 ans, c'était fini, il était mort. D'accord ? Donc heureusement qu'ils lui ont fait la radio pour la panicie. C'est-à-dire que quand tu réfléchis, que tu fais les calculs, tu fais les calculs comment la bonté d'Hachem, elle est riche, et comment elle est fine, et comment elle est établie, et comment elle est organisée, je deviens fou, tu deviens fou. Maintenant, le fait d'avoir réfléchi, d'avoir construit le raisonnement sur la perception de la bonté d'Hachem, ça ne va pas du tout donner la même émouna que quelqu'un qui a seulement dit « Bon, bah, Hachem, ça n'a rien à voir. » T'as compris ou non ? Ça n'a rien à voir. C'est comme quelqu'un qui a suivi un cours de maths et quelqu'un qui a fait 2 heures de maths. Ils n'ont pas le même raisonnement mathématique. Parce qu'il n'y a pas une acquisition. Il n'y a pas un changement. Ça, on l'a survolé. Encore ce matin, j'avais un Shalom Bayit d'Israël. Et le gars, il m'a dit, ça y est, Rav, j'ai compris. Alors, pour le problème d'argent, ça y est, j'ai trouvé une parnassa. Je le prends pas mal. Hein. Il m'a dit, oui. Je dis, ça, c'est le sucre en poudre. Tu sais, quand t'as pétri la pâte et t'as préparé la crème et tu l'as fait cuire et tu as coupé le gâteau en morceaux et tu as mis la crème et tu as mis des fraises et tu as remis la couche et tu as remis les autres et tu mets la crème autour. À la fin, tu mets la sucre en poudre. Je fais ça, ce que tu fais maintenant, c'est que le sucre en poudre. Ta femme, elle n'a pas parlé d'argent. Ta femme, elle a dit que tu n'es pas organisé, que tu n'es pas construit, que tu fais n'importe quoi, que tu te réveilles quand ça ne va plus, que tu ne t'occupes pas comme il faut. Et toi, tu as mis du sucre en poudre. Elle te parle du fond et toi, tu parles de la forme. Elle te parle de l'intériorité et toi, tu parles de la superficie. Donc maintenant, tu n'as pas compris c'est quoi la question. Donc tu ne vas pas donner la vraie réponse. Ça s'appelle les hitbonen. Les hitbonen, ça veut dire que tu fais des choses qui sont construites. Maintenant, cette construction, cette hitbonenout, c'est ça ce qui permet de vraiment de coller avec le sujet. Encore ce Shabbat, dans le Beit HaMidrash, c'est que des gens religieux. Un gars, il est venu, il m'a posé une question, mais Rav, il y a une contradiction dans cette Gemara. Et à la fin, j'attendais, à la fin, il m'a dit, oui, alors si Hachem, il sait tout, alors oui, le libre-arbitre. Je fais, tu vois, cette question-là, les étudiants de Grenoble, ils me l'ont posé la semaine dernière. Mais ils mangent des écrevisses. Toi, ça fait 30 ans que tu as fait tes chouvas, tu poses la même question. Oui, c'est pas grave d'avoir des questions, c'est bien d'avoir des questions. Mais c'est quand même bizarre qu'en 30 ans, tu n'as pas répondu à la question. Il m'a dit, non, c'était pas la peine de m'embourber avec 50 guémarottes. C'était ça ta question. J'ai une question, que pourquoi j'ai des épreuves, puisque bon Dieu, il sait ce qui va m'arriver. Ah, c'est une bonne question. On va répondre à ta question. On va répondre, j'ai répondu à la question. Ouais. Mais je lui ai dit, tu vois, ça, le problème, c'est quoi? C'est que tu en as vu des guémarottes, tu as écouté des cours, tu as étudié le Rambam, il m'a dit, ah, Rambam, al-Khotchouva, al-Berek, et al-Khabacher. Mais il n'a pas été mis de bonnet sur le Rambam. Monsieur Bernon, il a lu le Rambam, il a étudié le Rambam, peut-être même il a enseigné à son fils le Rambam, peut-être même qu'il a fait un chiour sur le Rambam, mais il n'a jamais réfléchi au Rambam. Alors maintenant Pitom, qu'il a un stress, ouais, à cause d'une guémara, alors il a un stress, alors il dit quoi? Alors quoi, Hachem, il peut faire des choses gratuitement? Alors pourquoi? Je dis, mais maintenant tu te réveilles. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui va avoir une émouna qui est basée sur les sensations, ou quelqu'un qui va avoir une émouna qui est basée sur l'éducation, ça ne va pas être la même émouna que quelqu'un qui a été mis de bonhomme. Tu dois accepter, ouais, que c'est émettre toute la Torah, elle est émettre. Mais maintenant, va travailler, va te casser la tête. Va devenir un chacham dans ta Torah. Pas le contraire, que le gars il dit non, j'ai d'abord besoin de réfléchir pour savoir si je dois avoir la émouna ou non. Là, il ne ira jamais. Parce que l'Itsara, il va lui faire réfléchir aussi pourquoi il ne doit pas avoir la émouna. Donc il n'arrive pas. Ouais. La émouna, c'est une chose qui est acquise. Tu es croyant. Tu prends. Mais après, tu dois être mit bonen. Et mit bonen, on a dit, ça vient de bonnet. Bonnet, ça veut dire que tu vas construire. Donc Hachem, il ne veut pas une émouna qui ne soit pas construite. Alors construis ta émouna. Mais même la karatatov, qu'on va dire que c'est quelque chose qui est riche, quelque chose qui est émotionnel, c'est ça. Je voulais vraiment dire merci. Je voudrais que tu réfléchisses bien avant de dire merci. Ouais, je veux que tu réfléchisses bien. Quand tu vas dire merci à ta femme pour un accouchement, réfléchis bien. Quand tu vas dire merci à ton mari pour les vacances et le souci de la parnassa qu'il a sur la tête la journée, réfléchis bien avant de dire merci. Réfléchis bien. Réfléchis, casse-toi la tête, il se lève le matin, il a le stress, il a les clients qui le plantent, il a les employés qui le volent, et il faut qu'il se casse la tête avec la banque, qu'il se bat, qu'il fait les voyages. Et après, quand tu as bien tout construit, tous les détails, tu vas dire merci, c'est pas le même merci. Et tu sais à quoi il va servir ce merci ? Qu'après, quand tu auras un malaise ou un mal-être, et tu diras oh, 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 ah, tu diras, oh, ben, il y a quelque chose derrière. Il y a un contrepoids. C'est pareil, quand tu vois tout ce que ta femme elle fait, tout ce qu'elle te fait, n'attends pas que Chas v'Shalom, maintenant qu'elle est partie, tu dis je m'en sors pas. Non, quand tu as bien réfléchi à tout le recette de ta femme, tu vas pas faire le même cavode que quand tu dis écoute, elle fait ce qu'elle a à faire, moi je fais ce que j'ai à faire, et chacun fait ce qu'il a à faire. Et c'est pas une bonne, c'est pas une cuisinière. C'est-à-dire tu es mitbonen, c'est ce qu'il dit. La akaratatov, elle doit être fondée sur la hitbonenout, elle doit être fondée sur une réflexion, mais qui est constructrice, qui construit la personne. Qui est construite et qui construit la personne. Maintenant, là où c'est violent, c'est que le Ramban, il dit que celui qui ne croit pas à ça, en lo chelek betorat Moshe. Et c'est pas une punition, c'est pas une malédiction, c'est une définition. Certains juifs, oui, il doit avoir la emouna, mais c'est dans les miracles. Mais cet Emouna, c'est une moi qui est réfléchi parce qu'il a vu que c'est pas quelque chose de normal. C'est ça qu'on a expliqué plusieurs fois. Que c'est quoi la religion ? C'est quoi la religion ? La religion, c'est une série de rites que l'on appelle des halakhot, que l'on applique journellement ou mensuellement, selon les opportunités. Non, c'est pas ça la religion. La religion, ce sont des liens, ce sont des liens qu'Hachem il a créés entre toi et le monde invisible. Parce que les téfilines, ils vont produire un certain effet, mais tu ne les vois pas. Mais tu as la émouna que c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Et la Torah, elle va produire un certain effet quand tu la fais rentrer dans ta maison. Et le moussard, il produit un certain effet quand tu travailles sur tes midotes. Ouais. Et le mikvé, il produit un certain effet sur les enfants que tu conçois et sur l'atmosphère de ta maison. Et le Shabbat, il produit un certain effet. Maintenant, c'est quoi cet effet-là que ça produit ? C'est un effet invisible. Maintenant, comment on appelle cet effet invisible ? Que l'application réelle, elle donne de manière invisible, s'appelle chez Ishri, Shrinatecha, Bamasiyadecha. Ça veut dire que la présence divine, elle va résider dans ta maison. Maintenant, la présence divine, elle va résider dans ta maison, ça s'appelle le Shalom. La présence divine, elle va résider dans ton couple, ouais, ça s'appelle le lien, le Shalom. La présence divine, elle va résider dans ton business. Je ne comprends pas, la conjoncture, elle est mauvaise, tout le monde pleure, mais grâce à Dieu. Ça tourne, le magasin il est rempli, on ne sait pas comment, ouais, tout le monde pleure, et ouais, ça s'appelle la Shekhina, d'accord. La Shekhina, elle fonctionne entre toi et tes associés, malgré les problèmes, malgré les malentendus, il y a quand même le Shalom, alors on arrive à faire passer nos engagements avant nos intérêts, ça s'appelle aussi la Shekhina. C'est-à-dire que chaque fois que tu amènes la Shekhina quelque part, c'est-à-dire que tu fais fonctionner l'invisible en agissant sur le visible. Maintenant, pour que l'invisible, il agisse sur l'invisible, il faut que même dans le visible, l'invisible soit présent. Alors, comment on appelle rendre l'invisible visible ? C'est très simple. Quand tu vas être gentil avec ta femme, ne sois pas gentil parce que psychologiquement, c'est bien d'être gentil. Sois gentil parce que c'est une mise d'être gentil. Ouais. Et quand tu vas dire merci, tu ne dis pas merci parce que c'est intelligent et c'est social de dire merci. Non, tu dis merci parce que Akaratatov, c'est une mitzvah qui se fait partie. Ouais. Et quand tu vas faire du chesed, tu es en train d'accomplir la mitzvah de Vera, c'est-à-dire tu ne pas. Et quand tu donnes le kavod, parce que c'est une mitzvah de faire le kavod. Donc qu'est-ce que tu fais en vérité ? Chaque acte, tu lui donnes un caractère de mitzvah. En lui donnant un caractère de mitzvah, tu introduis Hachem dans l'histoire. Donc c'est pas en vérité, c'est pas la psychologie. C'est pas la psychanalyse, c'est pas l'état d'esprit, c'est pas l'ambiance. Pourquoi ? Parce que quand tu fais psychologie et psychanalyse, tu crois qu'en réalité c'est toi qui maîtrises la situation. Et Hachem, il adore faire des blagues aux gens qui croient qu'ils ont tout compris. Et il a un humour qu'il faut supporter. Ouais. Mais quand tu dis, moi, en vérité, j'ai un cerveau, je suis intelligent, c'est vrai, mais moi ce que je veux, c'est faire intervenir Hachem dans ma vie. Alors qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire la même chose, mais en tant que mitzvah. Je peux faire de la gentillesse, ou je peux faire de la tzedaka, ouais. Je peux faire de l'équité, ou je peux faire de la tzedaka. Je peux faire de la relation sociale équilibrée, ou alors du kavod. Maintenant, à chaque fois que tu vas donner un caractère de mitzvah, que tu sois religieux ou pas religieux, ça change rien. En fait, qu'est-ce que tu fais ? Tu mets Hachem à l'intérieur. Maintenant, quand tu mets Hachem dans la partie visible, alors automatiquement, lui, il va s'occuper d'investir la partie invisible. Et après, toi, tu ne comprends pas. L'enfant, il a 4 000 km d'avant, pas chez lui, il est protégé. L'autre, il est de l'autre côté, ça fonctionne. Là-bas, le fournisseur, on lui propose de te planter. Il dit non, non, moi, je continue à travailler avec monsieur, j'ai confiance en lui. Tu dis, mais je ne comprends pas, le gars, il a des propositions 5 fois plus. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il lui a dit, tu vas rester fidèle à ton client. Il t'a porté bonheur, tu vas rester avec lui. Pourtant, il peut te planter. Un autre chinois, là-bas, tous les jours, on lui propose 5 fois plus pour qu'il vende des brevets. Pourquoi il va rester honnête? C'est Hachem qui lui a bloqué la tête. Le contraire aussi. L'autre, il a tout fait, il croit qu'il est intelligent, il est super intelligent, il a fait le produit, il arrive au salon, tous ses produits sont chez les concurrents. Le gars, il a fabriqué 100 000 pièces pour lui et 13 millions pour les concurrents. Et il change les marques. Va chez ta mère, va courir après le chez moi maintenant. Toi, tu crois parce qu'il t'a volé? Non, parce qu'il n'y a pas la Shekhinah. Parce que toi, tu prends pour le patron. Le patron, il dit, je vais t'expliquer c'est qui le patron. Voilà, monsieur le malin, je vais t'expliquer. Ouais, c'est ça l'idée. L'idée, c'est quoi? C'est que quelqu'un, pourquoi? Parce que tout ce travail et cette bonne note et cette réflexion et cette émouna, c'est justement pour arriver à ce résultat-là. Que quelqu'un, il est collé avec Hachem. Et qu'est-ce qu'il fait le cerveau? Il te sépare, au contraire. Il te dit, qu'est-ce que tu as besoin? Tu es intelligent, tu n'es pas idiot, non? Tu as besoin de te faire embrouiller par ces trucs, ces chimères là, religieuses et l'opium du peuple. Tu n'as pas besoin, tu es un gars malin, tu es un gars intelligent. Alors d'accord, alors mais travaille, essaie, vois ce que tu vas faire. Vois ce que tu peux faire sans Dieu. Avec Dieu, c'est dur. Sans Dieu, c'est comment? Et contre Dieu, c'est comment? C'est ce qui est marqué ici. Ouais. Que cette réflexion-là, que quelqu'un, il doit construire sa émouna. On dit le Rav Simcha Zissel, qui était religieux, c'était un Rosh Yeshiva, c'était un élève de Rav Israël Salanter. Il cherchait toute sa vie, il cherchait des preuves que la Torah est divine. Des preuves. Il cherchait des psukim, il cherchait des rayot, il cherchait. Je ne comprends pas, tu n'es pas ma'amine. Mais c'est qui le ma'amine? Bien sûr qu'il croit. Mais il veut que cette émouna, elle soit construite. C'est mieux, non? Comme tu dis, c'est ma femme, c'est ma femme. Et maintenant, je vais chercher comment je peux améliorer, comment je peux chercher, comment je peux voir sa valeur, comment je peux comprendre ce qu'elle est, comment. Mais t'as déjà, bien sûr que t'es marié. Bien sûr que t'es marié. C'est pareil ton mari, c'est pareil tes enfants. Bien sûr que c'est mes enfants. Non, tu dois réfléchir. Tous les jours, tu réfléchis comment il fonctionne celui-là, comment je vais faire, est-ce que je dois le prendre comme ça, je dois le prendre comme ça. C'est ça, c'est ta mitzvah de parents. La mitzvah de parents, Veshinatam Levanecha, c'est de réfléchir sur comment tu peux apporter le meilleur de toi-même à l'enfant en lui apprenant à se préserver du mauvais que tu lui transmets. Mais si tu dis, écoute, on n'a pas que ça à faire, allez à table, fais ta douche, va dormir, fixe à la télé. Ça, c'est pas de l'éducation, c'est de l'élevage. Ça, c'est pour les poulets. Allez, allez, il a grandi, papa, tiens, on va le marier, les gars. On va trouver une poule pour le poulet. Non. C'est pas ça l'éducation. Encore une fois, c'est quoi? C'est une idbonenout. Maintenant, pourquoi tu as besoin de la idbonenout? Pourquoi tu as besoin d'une réflexion qui construit? C'est pas parce que pour que tu deviennes plus intelligent. C'est parce que cette réflexion, elle va te rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch Hu. Parce que ta reconnaissance, qui est fondée sur une construction, elle va être plus forte. Oui. Et le kavod que tu vas faire à ta femme ou ton mari, qui est basé sur une réflexion, il va être plus grand. Et la finesse de ta pédagogie, en tant que rave ou en tant que parent, si elle est basée sur une réflexion, elle va être encore plus puissante. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas augmenter l'impact, parce que tu as augmenté l'intégration. Alors que si tu fais, bon, écoute, je fais ce que j'ai pu, j'ai rien fait. Bon, t'as rien fait, mais t'as fait ce que t'as pu. Bah, écoute, t'as fait ce que t'as pu, bah, tu peux rien. Bon, comme tu peux rien, bah, tu fais ce que tu peux. C'est rien. Bon, c'est bien. Bah, écoute, c'est mieux que rien. Hein, c'est t'appelles un petit rien. Petit rien, c'est mieux que rien. Ouais, non. C'est marqué ici. Que la personne, en vérité, elle doit avoir cette réflexion. Même si tu vois la science, et tu vois les découvertes, et tu vois le Tzaloued, toi, tu dois avoir cette réflexion. C'est ce qui dit le Chazon Ish, qui marche chez Anu Korim Teva. Ce que nous appelons la nature, Amechuvan basé ratzon ayoter matmid shel ameave kol avayot itbarach. Je traduis. Alors, parce que ce que nous appelons la nature, oui, Amechuvan basé, c'est-à-dire la signification de cela, c'est quoi? C'est un ratzon, c'est une volonté ayoter matmid, de la plus grande perpétuité. Shel Ameave, de celui qui fait être Kol Avayot, tout ce qui est, Idbarach. C'est pourquoi Hachem il s'appelle Yudke Vavke? Parce que ou Meave Kol Avayot, il fait être ce qui est. Tout ce qui est, est le fruit de la volonté de celui qui fait être. Lui, il s'appelle Yudke Vavke. D'accord? On a déjà expliqué 50 millions de fois que Ove, c'est la racine du nom divin, avec un Yud devant, c'est Meave. Meave, c'est faire être. Maintenant, moi, je dois avoir la émouna que Hachem, il fait être ce qui est. C'est-à-dire que je dois avoir la émouna que ce bout de bois-là, en temps réel, maintenant, Hachem, il est en train de le faire. Je dis, écoutez, c'était un arbre, d'accord, qui a poussé. Ensuite, on l'a donné à un menuisier, il a coupé, il a fait une planche. Et après, il est venu à un Israélien, il a mis un bout de ferraille, il a construit un Schneider. Non. Ça, c'est une illusion d'optique. Moi, je dois avoir la Emouna que Hachem, il a fait pousser là. Après, il l'a donné, il a fait arriver chez le menuisier, il a fait la planche. Mais après, pendant, pourquoi les molécules de cette planche, elles restent une planche? Enfin, c'est une planche, c'est une planche. On se demande qu'est-ce qu'il a fumé le rabbin. Non, c'est une planche, oui. Mais moi, je dois avoir la Emouna que cette planche-là, c'est pas normal. Je vous ai expliqué ça au niveau scientifique. Einstein, il appelle ça le compte à rebours. C'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur de la matière, il y a un compte à rebours qui fait que la structure moléculaire, elle reste telle qu'elle est. Pourquoi elle ne devient pas autre chose? Ouais, le bois, il va s'user, il va tomber à la poubelle. D'accord. Alors nous, on dit, c'est un cycle naturel. Le bois, l'arbre, le bois, la planche, la poubelle, la décharge. D'accord. Et la disparition. Mais en vérité, c'est faux. En vérité, cette planche-là, elle peut devenir un oiseau. Bon, je ne peux pas faire l'expérience devant vous parce que j'ai peur qu'il y en a qui s'affolent. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'il faut avoir la Emouna qu'en temps réel, Hachem, il fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Et si quelqu'un il va dire, bon, mais attends, ça serait quoi l'intérêt de rendre une planche à un oiseau? Ça ne sert à rien. C'est vrai que ça ne sert à rien. Mais quand la personne, elle va recevoir la radio et qu'on va lui dire, écoutez, on pense que c'est une tumeur, et que le gars, il va pleurer sa neshama et sa mort, et qu'on dit, venez, on refait une radio, et qu'on ne voit plus rien, tu ne vois pas que la planche, elle est devenue un oiseau. Mais si toi, tu ne crois pas qu'Hachem, il peut rendre une planche à un oiseau, pourquoi il va faire disparaître une tumeur, puisqu'une tumeur, quand elle a été scannée, elle est là, et je ne peux pas dire qu'elle n'est pas là, non? Alors comment il va arriver à un miracle, puisque toi, dans ton espace mental, tu ne fais pas intervenir le miracle? Et comment l'enfant, il va changer, alors que toi, tu l'as condamné parce que tu dis, il est débile. Tu as fait un psak à la hache, il est débile. Alors comment il va devenir bon, puisque tu penses qu'il est débile? Et toi, tu es le reporter de la volonté d'Hachem. Donc Hachem, il te donne à toi, et toi, tu regardes à lui. Alors Hachem, il dit, qu'est-ce que t'en penses? Il dit, moi, je pense qu'il est débile. Hachem, il dit, bon, c'est comme tu veux. Allez, tu sais quoi? Allez, un débile de plus. Et toi, tu dis, non, il n'est pas débile, parce qu'il a un bon fond, on lui a donné beaucoup d'amour, beaucoup de Torah, il va sortir bien. Et paf, l'enfant, il sort bien. Alors on dit en français, parce que tu y as cru. Mais c'est quoi croire? Croire, c'est donner le droit d'exister à la chose. Et ça, c'est la différence entre Esav et Yaakov aussi. Parce que Esav, il s'appelle Esav. Esav, c'est Assou. Assou, c'est Assoui. Il est Assoui. Il est fini. C'est pour ça que le deuxième prénom de Esav, c'est Capri. Il est fini. D'accord? Ouais. Un chimpanzé, en 6 mois, il est adulte. Oui. Yaakov, il s'appelle Yud Ekev. Yud, c'est la Chorma. Ekev, c'est le talon. Qu'à la fin de sa vie, avec toute la Torah qu'il a appris, un juif, il est encore au talon de ce qu'il est capable de faire. Tu vois, les grands Sadekim, ils ont 95 ans. Ils te disent, mais j'ai encore tellement de choses à faire. Ouais. Et off, le pathos, à 20 ans, il dit, de toute façon, j'ai tout fait. Qu'est-ce que je vais faire de plus? J'ai mangé, j'ai dormi, j'ai fumé. Qu'est-ce que je... Il est rassouille, il est fini. Pas qu'il est terminé. C'est une mentalité terminée, finie. Ouais. Donc, on peut encore grandir, on peut développer, on peut... Ah, c'est fini. Ça, c'est Esav et ça, c'est Yaakov. Maintenant, c'est pas pour dire, Esav, c'est Esav, et Yaakov, c'est Yaakov. Le problème, c'est des Juifs qui se prennent pour Esav et des Goïms qui se prennent pour Yaakov. C'est le problème. C'est ça, le vrai problème. Oui. C'est-à-dire, si quelqu'un il veut se renouveler, changer, comprendre que le monde, il est infini et qu'on a le devoir d'évoluer perpétuellement, il est dans un principe de Yaakov. Et si quelqu'un dit, écoute, c'est comme ça, c'est pas la peine, d'accord? Je vais pas faire d'efforts, je vais pas changer, je suis comme je suis. De toute façon, la religion, la truc, ce qui compte, c'est la bouffe et le sexe. Lui, il est dans un moussaf de Essav, même s'il mettait des tunis tous les matins. Parce qu'il veut pas pousser, il veut pas grandir. Donc en fait, il veut pas être mis de bonhomme. C'est pour ça que les gens, ils veulent pas réfléchir. C'est difficile. C'est difficile de faire réfléchir. J'ai fait un cours jeudi soir. C'est la première fois en 25 ans que j'avais oublié que j'avais cours. J'ai fait tellement cours. Quand je suis arrivé jeudi soir, j'étais tranquille chez moi à la maison. Alors, les enfants me disent, papa, t'es là? Ouais, je suis là. Ma femme me dit, t'es là, c'est super. Et à 9h15, je vois le téléphone qui sonne. J'ai dit, ce nom-là, ça me dit quelque chose. En fait, j'avais cours. J'avais oublié que j'avais cours. Il m'avait dit, Mira, vous êtes où? Il croyait que j'étais en bas en train de chercher une place. J'ai dit, non, je suis à Épinay-sur-Seine, à côté de Gaza, là-bas, de l'autre côté. Et le cours, c'était à Neuilly. Et mon assistant, le chauffeur, il est malade ce soir-là, il n'y a pas de voiture. Il m'a dit, on prend un taxi, comment je fais? Il y a 40 personnes, ils sont là, ils vous attendent. Alors, ma femme, ça déquête, elle m'a dit, allez, je prends la voiture, je t'emmène. Je suis arrivé là-bas en 20 minutes, j'ai commencé à 10h le cours, j'ai fini à 11h30. Ils étaient contents. On a été essayé de récupérer le... Mais quand j'ai fini le cours, après j'ai savais pourquoi je suis venu là-bas. Parce qu'il y a des parents qui sont venus, écoutez, on ne connaît pas du tout la Torah, ce sont nos voisins qui nous ont demandé de venir. Et on a votre cours, il nous a beaucoup remué. Justement, on a un problème avec un enfant et on voulait savoir comment faire, comment truquer. Et on a parlé. Et là, il m'a dit, va vous ouvrir la tête. J'ai pris l'adresse, le lendemain, j'ai fait un paquet, je l'ai envoyé. Je sais pourquoi je suis parti là-bas. Mais c'était une extrémiste. Ouais, c'était une extrémiste. C'était une extrémiste que la personne, on va la sauver juste avant qu'elle tombe dans le trou. Ouais. Alors même moi, j'ai failli rater le cours. Même eux, ils ont failli ne pas venir. Et même l'enfant, il est à la limite parce qu'il est déjà copain avec une Goya. Tout est limite dans l'histoire. Limite. Mais limite, avec la bonne volonté, tu peux tout sauver. Tu sauves tout. Hop, tu rattrapes. Ouais. Et ça, c'est quoi l'idée? C'est que eux, ils croient en leurs enfants. Le gars, il croit à ses parents. Toi, tu crois ce que tu fais, et toi, tu crois en nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un cumul de faisceaux de croyances. Maintenant, eux, ils ont bien réfléchi sur le problème de leur enfant. Moi, j'ai bien réfléchi sur le cours que je dois faire. Et ben, j'ai bien réfléchi pourquoi je suis là-bas. Et j'ai bien réfléchi que malgré que je suis fatigué, je vais quand même parler avec eux avec une demi-heure. Donc, on est tout dans la hit bonenout. Et ben, la hit bonenout, en hébreu, ça s'appelle dvekut bashem. C'est ça, dvekut. Ouais. Et ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas mit bonen, en vérité, il survole le judaïsme, il survole sa vie, il survole son couple. Les gens comme ça, ils survolent. Qu'est-ce qui se passe en bas? Je ne sais pas, je ne fais que passer. Donc quelqu'un, il a visité la Chine en avion. Comment c'était? Rapide. C'était rapide. Quoi, t'es pas descendu, t'as pas visité les temples et les trucs, et Pékin, et là, et Hong Kong, et là, et Shanghai, et Taipei, et les fleuves, et les... Non, je suis passé en avion. Maintenant, si tu passes au-dessus de la Chine en avion, c'est pas très grave. Mais si tu passes au-dessus de ta vie en avion, c'est un problème. C'est un problème. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait que tu vis ta vie plutôt que de survoler ta vie? C'est la hitbonenout. Maintenant, hitbonenout de quoi? C'est ce qu'il dit le Chazon Ish. Il dit « Ratson ayoter matmid ». C'est ça l'illusion d'optique, c'est de croire. Parce que la nature, c'est-à-dire la volonté d'Hachem de créer la nature, est tellement précise, est tellement puissante, est tellement régulière, est tellement établie, que tu peux croire que ça se fait tout seul. Il n'y a que les croyants et les médecins honnêtes qui savent que la santé est un miracle. Les médecins malhonnêtes, ils vont dire que c'est eux qui maîtrisent. Mais les médecins honnêtes, ils te disent « Monsieur, un dérèglement hormonal, ça crée une dépression. Un petit caillou dans le cerveau, ça crée la mort. Une bulle d'oxygène, ça fait ça. Un dérèglement du sucre, ça fait ça. Le fait que quelqu'un il soit debout, qui marche, qui travaille, qui parle, qui respire, c'est un miracle. C'est un miracle. Ça s'appelle Ratson Ayoter Matmid Shel Ameave Kola Avayot. Maintenant, toi, tu peux le voir, ça. Tu peux mettre un scanner et tu sais quoi? On va s'asseoir, on va prendre le temps. La preuve, c'est que quand les gens ils sont malades, ouais, ils rencontrent des médecins, des spécialistes, ils cherchent sur internet, on leur explique, voilà, vous avez ça, le cœur il est comme ça, le truc il est comme ça, c'est comme ça que ça. Et le gars il devient spécialiste de son problème. C'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de réfléchir au miracle. Mais si le gars il est un peu malin, hein, et qu'il prend le Chavot Al-Vavot, et que le Chavot Al-Vavot il lui dit la base de l'Aïmouna c'est de réfléchir à tous les miracles déjà du corps humain. Donc lui, il a fait la hitbonenout, il a déjà fait la réflexion constructive avant. Il n'a pas eu besoin de l'événement pour devenir intelligent. C'est vrai ou non? C'est pareil quand quelqu'un il réfléchit tout ce que son couple lui amène et comment il doit fonctionner avec ses enfants et avec la santé et la part d'assain. Mais c'est que des miracles, mais c'est des miracles. Tu sais combien il y a de gens qui crèvent de faim? Tu sais combien toutes les secondes, toutes les 9 secondes, il y a une fille qui se fait violer? Toutes les 9 secondes, tu veux jusqu'à 9, il y en a une qui est violée. Et bien, au Hachem, les enfants, ils vont à l'école, ils reviennent, ils travaillent, ils réfléchissent, ils font leurs études, ils se marient. Monsieur, comment ils passent à travers le fil de la violence, de la drogue, de la chlala, de l'internet, de la pourriture, de la prostitution? Mais comment ils passent au travers? C'est comme quand vous voyez des vidéos sur les trucs sous-marins. Moi, ça ne me met pas toujours. Il y a les requins, ils nagent au milieu des poissons. Mais le requin, il est là. Le poisson, il est là. Et le gars, il est tranquille. Moi, je dis, moi, je vois un requin, je m'en vais pas. Si tu vois un mafiosi qui rentre comme ça, toi, tu changes de rue, non? Toi, tu viens à côté du requin. Et le requin, il l'attrape, il mange. T'as compris, non? Et tu dis, colloir de Mazzalo. C'est pareil, tu fais des affaires. Tu sais combien il y a d'escrocs? Tu sais combien d'embrouilleurs? Voilà un ami à moi, il vient de se faire voler sa société par un truc de rachat truqué très loin, 500 millions d'euros. Le mec, il a fait 30 ans de sa vie, ils ont fait une embrouille comptable, une EPA, ils ont pris sa voile. Il dit, monsieur, vous êtes sorti d'ici. Le mec dit, monsieur, qui c'est au revoir, c'est Favor. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ça fonctionne, mais tu dois faire le halal tous les jours. Qu'est-ce qui est marqué ici? Que le fait d'être mis de bonen, Bechas de Hachem, mais c'est ça un juif. Oui, un juif, c'est pas quelqu'un qui comprend, c'est pas quelqu'un qui est conscient, c'est quelqu'un qui a construit à l'intérieur de lui-même cette force-là. C'est une émouna qui est fondée, qui est fondamentale. Il a de quoi argumenter pour prouver. C'est ça que j'ai dit, les gens qui ont des questions, ça ne me dérange pas. Le problème, c'est comment ça se fait qu'ils n'ont pas répondu aux questions, parce que quand leurs enfants vont leur poser la question, quelle réponse ils vont donner? D'ailleurs, ce gars-là de Shabbat, je lui dis, écoute, ma famille, elle m'attend. Il faut 1h30 pour répondre à cette question. Comme tu es un gars intelligent, je vais donner la réponse en 3 phrases. Et je te laisse réfléchir pendant 2 ou 3 ans. Mais ça n'a pas marché. Le gars, il est revenu. En fait, je sais qu'il n'a pas compris. Parce que les 3 phrases, elles contiennent la réponse. Mais le problème, c'est qu'elles contiennent la réponse quand tu les as fait mûrir. Ça prend le temps de... J'ai une première phrase, deuxième phrase, troisième phrase. A implique B, B implique C, C implique D. T'es prêt? Il dit, ouais, j'ai compris. Non, mais quand même. Tu vois, il n'a pas compris. Pourquoi? Ça s'appelle mûrir. Ouais, ça s'appelle maturer. Là, c'est de la réflexion. Il faut qu'elle t'appartienne. Mais des fois, on a tellement synthétisé le raisonnement, tellement synthétisé, qu'à la fin, c'est tellement simple que l'objet ne peut pas comprendre. Tu dis à quelqu'un, tu dois faire une séparation entre le registre du divin et le registre de l'humain. L'humain, il est relatif et le divin, il est absolu. Maintenant, toi, tu poses une question relative, pourquoi? Dans le domaine du divin. Mais le divin n'a pas de pourquoi. C'est l'humain qui a un pourquoi. Donc, qu'est-ce que tu fais en réalité? C'est ce qu'on appelle un PAC en psychologie, en philosophie. Un PAC, c'est un piège à... Oui, un piège à... Oui, il y a que les Français qui comprennent. D'accord. Donc, c'est un piège à imbécile. Parce que c'est comme si je dis, est-ce qu'une antilope peut courir sous l'eau? Mais l'antilope ne peut pas courir sous l'eau, puisqu'elle ne peut pas respirer. Non, mais je formule la question, je te pose la question, qu'est-ce que tu dis? Ça ne sert à rien que je te réponds. Ah, c'est pareil. Le divin et l'humain, c'est deux. Maintenant, ou tu te mets dans la lecture du divin, donc dans l'absolu, et l'absolu n'est pas tenu à la causalité, et n'est pas tenu à l'ordre, et n'est pas tenu à la justice. C'est toi qui es tenu à ça. Ou alors tu te mets dans l'homme, dans le relatif, et le relatif, c'est vrai, il y a des choses qui comprennent, des choses qui ne comprennent pas. Fais comme tu veux. Alors qu'est-ce que tu fais toi? Tu formules une question dans l'absolu, d'accord? Enfin, tu formules une question humaine dans l'absolu. Donc tu poses une question dans un registre relatif, mais sur un domaine qui est absolu. Ça ne marche pas. Voilà, je vous ai donné la réponse. Maintenant, le Rambam là-bas, il répond ça, parce qu'il dit « Es marchevotai, marchevotechem ». Il dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées ». Mais qu'est-ce qu'il fait l'homme? L'homme, il s'imagine que le fait de réussir à formuler une question, ça fait que la question est une question. Non, la formulation de la question ne fait pas une question. Parce que pour que la question, elle soit apte à être une question, c'est aussi qu'elle soit apte à avoir une réponse. Maintenant, quand toi, tu poses une question que tu n'es pas adapté à la réponse, c'est pas une question, c'est un problème. Et tu vas rester comme ça, comme la mouche qui n'arrive pas à sortir du verre. Parce qu'elle n'a pas accepté qu'il y avait une seule sortie, c'était par en dessous. C'est exactement pareil. Et toi, maintenant, si tu as fait cette réflexion-là, et tu as réglé ce problème de la emouna qui s'appelle la connaissance de Dieu et le libre arbitre. Ouais. Et tu as réglé une réflexion qui s'appelle pourquoi les tzadikim y souffrent. Et tu as trouvé une réflexion pourquoi des rechaïm y profitent. Quand tu as des questions et que tu as des réponses, tu peux vivre. Mais si toi tu n'as pas de réponse, c'est parce qu'en fait tu n'avais pas de réflexion sur la question. Tu avais la question mais tu n'as pas la réflexion sur la question. Alors tu vas crever. Si toi, tu ne veux pas réfléchir sur la question, il vaut mieux que tu ne poses pas la question parce que cette question, elle va te rendre cinglé. C'est comme des gens qui veulent poser des problèmes, mais ils ne veulent pas aller au fond de la solution. Tu veux, t'as un problème? Oui. Pourquoi? C'est pourquoi? Tu dis, écoute, tu veux poser le problème? Oui. Alors viens, on va réfléchir. Mais attention, il y a toi, il y a elle, il y a les tenants, les aboutissants, il y a la jeunesse, il y a les enfants, il y a la psychologie. T'es prêt? T'es prêt ou non? Ah, oh, c'est compliqué. Alors ne pose pas de question. D'accord ou non? Si tu ne veux pas traiter le fond, alors reste tranquille, bonjour, qu'est-ce qu'on fait à manger? Tiens, on regarde un film, on fait le cinquième. Tu veux rester comme ça? Reste comme ça. Ah, tu dis non, je ne suis pas d'accord, c'est pas comme ça. Ah, tu ne veux pas? Alors, il faut rentrer dans le fond, tu veux le fond. Alors tu la respectes, tu l'écoutes, tu dis pourquoi elle parle avec tout le monde alors que toi tu lui parles jamais, pourquoi elle n'est pas épanouie alors que tu l'étouffes, tu veux rentrer dans le fond, t'es sûr. Et pourquoi tu l'étouffes? Parce qu'on t'a étouffé, parce que tes parents t'ont étouffé. Pourquoi tu as choisi ce métier? Parce que toi tu n'arrives pas à assumer le contact avec les autres, pour ça que tu t'enfermes dans les bureaux, pour ça que tu as choisi l'informatique. Tu veux qu'on rentre dans le fond? Tu veux qu'on fasse de la psychiatrie chez toi? Mais alors tu peux le faire, mais si tu le fais, va jusqu'au bout. Mais si tu ne vas pas jusqu'au bout, tu vas remuer, et tu vas déprimer. Maintenant, comme ça existe dans le mal, ça existe dans le bien. Maintenant, dans le bien, ça s'appelle la construction de la Emouna, et dans le mal, ça s'appelle la prise de tête. Les gens, ils se prennent la tête. Ils se prennent la tête, mais ils ne règlent rien. Ils se prennent la tête. Ouais, pourquoi le petit? Tu veux pas parler avec lui, échange avec lui, emmène-le chez un psychologue, trouve un raf sympathique, fais quelque chose. Non. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est malade. Tu deviens cinglé. Donc c'est ça qui est puissant. C'est que cette obligation, en fin de compte, de construire sa Emouna, et pas simplement d'être ma'amine, de construire sa Emouna, c'est quoi? C'est que tu vas aller observer. Tu vas voir des miracles. Oui. Maintenant, tu vois les grands miracles et tu vois les petits miracles. Les miracles qui sont en Nistarim, il y a deux catégories. Il y a les miracles cachés qui sont globales, d'accord? Parce que c'est vrai que dans l'univers, le monde y fonctionne, et tu vois que la Terre se déplace, et qu'il y a une orbite, et qu'il y a les marées, et que, alors que tous ces miracles-là, que les météorites, d'après les scientifiques, ça fait 15 milliards d'années qu'elles passent à côté de la Terre. C'est un miracle. Alors qu'il y en a qui font la taille de la France. Oui? Et que la pluie elle tombe goutte à goutte, et que l'impact de la Lune elle crée des marées, alors que si ça se déplaçait de 10 km, elle crée des tsunamis tous les jours. Donc tout ça, et que la mer elle s'arrête à la plage, elle va pas plus loin, d'accord, et que les globules blancs, les globules rouges, ils se développent de manière normale dans ton corps, et pas qu'il n'y a pas d'explosion de globules blancs. Mais tout ça, c'est quoi? C'est des Nissim Nistarim. Maintenant, il y a des petits miracles Nistarim et des grands miracles Nistarim. Maintenant, quand toi tu arrives à accepter que chaque chose, elle s'inscrit dans une logique, et cette logique-là, elle est reliée entre elles par la Emouna, alors qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir les petits miracles et les grands miracles. Maintenant, quand quelqu'un il fait modim, ouais, chaque jour, quand il fait modim, il doit bien lire les mots, c'est marqué, « Ve'anisecha shebechol yom imanu », ouais, sur les miracles de chaque jour avec nous-mêmes. Je dis, celui qui a des calculs dans les reins, il sait pourquoi on fait la bracha shayatza. Il sait, ouais. Celui qui a eu une obstruction intestinale, il sait pourquoi on fait la shayata. Celui qui a eu un malaise cardiaque, il sait qu'est-ce que ça veut dire un miracle de chaque jour. Ouais, celui qui on lui a trouvé ce qu'il fallait au bon moment, celui qui a trouvé le bon médicament, celui que... Mais tu vois pas? Ça s'appelle ve'anisecha shebechol yom, ve'tovotecha shebechol et. C'est chaque seconde. Ouais, des fois tu manges, tu l'avales de travers, la cacahuète. Mais c'est un miracle. Celui qui a des enfants, il peut pas ne pas être croyant en Dieu. C'est impossible. Celui qui a des enfants, il ne peut pas. Ouais, l'autre, il descend les escaliers en vélo. L'autre, il pousse son frère sur le radiateur. La tête, elle passe comme ça. L'autre, il joue avec le tournevis comme ça, dans les yeux. Genre, on va jouer aux épées. D'accord? Tac. Mais tu te rends compte? L'autre, il s'amuse. Il tourne la tête, il met le doigt comme ça. Mais combien? Combien avec les crayons? Combien dans la cour d'école? Combien l'autre, il le pousse dans le dos? Il tombe sur les barrières? Combien? Si tu ne vois pas ça, mais comment? Donc quand tu fais modim, chaque seconde. Tu dis hier soir on est. Ah non, c'était quel jour? Dimanche. Jeudi soir on était pour faire le cours, mais il y avait 250 personnes dans la salle. Moi j'arrive à 9h moins quart. J'arrive, le gars il sort de la place, il s'en va, il nous laisse la place. Alors mon assistant là, il me dit, mais Rav, il faut qu'on décrive un livre. Chaque conférence, il y a un gars qui s'en va devant la porte. Mais il y a 250 personnes qui se garent. Ça veut dire que tout le monde cherche une place. Mais il y a un goy qui habite en haut, qui doit aller voir sa mère, ou aller jouer au football, ou aller voir sa maîtresse, et qui va sortir à 20h45 pour que toi, quand tu arrives de dépiner avec 45 minutes de route, tu viens et tu te gares direct, en face. Il veut pas, le bon Dieu, que tu fasses 5 km à pied. Tu traverses la rue, tu rentres au chiot. Chaque cours. À la fin, je te dis, tu t'habitues, tu dis, bon. Ils ont un logiciel à Paris, c'est incroyable. Quand tu arrives, le gars, il s'en va. Un software bizarre. Déjà, dans les parkings, ils savent combien il y a de places occupées, mais là, c'est un nouveau truc. Quand tu arrives, quand le rabbin, il arrive, Le gars, il s'en va, c'est comme ça, c'est un nouveau truc. Il attend, il est là, toute la nuit, il a dit, j'espère qu'il y a un rabbin qui va venir. Je suis gardé en face de la synagogue, c'est dommage, que si un rabbin il vient, il aura cette place. Tu t'habitues, tu trouves ça que c'est une logique normale. Ça veut dire quoi? Ça s'appelle « Ve'anisecha shebechol et ». Mais il y a aussi « Ve'nifleotecha shebechol et ». Nifleotecha. C'est quoi les nifleot? Oui, c'est les choses incroyables. Même par rapport à ce qui s'est passé à Yerushalayim. Moi, j'ai eu plein de gens. Vous n'avez pas eu le message que j'ai fait sur Facebook? Vous avez vu celui-là? Le jour même, après, ils l'ont fait en email. Quand j'ai vu je suis levé le matin, j'ai fait la tefila, je suis rentré à la maison, j'allume pour voir les messages, et je vois les photos avec le sang et les talits pleins de sang. J'ai dit, j'ai une angoisse. Jamais j'ai fait ça. J'ai écrit un texte directement sur Facebook, j'ai marqué. C'est pas possible, il faut faire quelque chose, il faut que chacun se réveille, chacun prend quelque chose sur lui. Parce que là, ils sont rentrés dans une synagogue, des gens qui étaient en train de faire la mida. C'est pas qu'ils sont rentrés dans une pizzeria, ou dans un endroit où on vend la drogue, ou qu'ils sont rentrés dans une synagogue pendant la fila. Et des gens, les quatre qui ont tué, enfin les cinq avec le druze, c'est des gens. Moi j'ai un ami, un rave, un américain, qui connaît un, il m'a dit, Uyodea kon la chasse kulo alpe. Un gars, il connaît tout le chasse par cœur. C'est pas qu'ils ont tué un proxénète, ils ont tué un tzaddik. Et comment ils les ont tués? Vous savez comment ils les ont tués, non? Hein? Ils ont coupé les mains et les têtes. J'ai dit, attends, mais c'est quoi cette barbarie? J'ai envoyé ce message. Après, le soir, au cours de Paris, où il y a 150 personnes, il y avait 300. Le lendemain, j'étais à Lyon, où il y a 120, il y avait 200. C'est que les gens, ils ont été choqués, ils ont été remués. Et j'avais très peur, parce qu'après j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, jamais on fait ça, parce que les gens disent, ah, vous profitez qu'il y a un malheur pour nous faire du chantage à la religion. Mais je l'ai fait, Bélève Chanel, j'ai fait aucun calcul, j'ai dit, je profite pas, j'ai dit, c'est pas normal, on ne peut pas rester comme ça en train de dormir, alors que les gens ils se font couper en morceaux. Et ça a fait de l'effet, Baruch HaShem, beaucoup de gens qui ont réfléchi, qui ont souhaité, qui ont bougé. Mais après j'ai réfléchi, j'ai dit, en fin de compte, malheureusement, il faut des choses comme ça, que les gens ils bougent. Avec le gars, tant qu'il ne voit pas la lettre d'avocat, il dit ma femme, elle supporte, elle dit rien. Là, il y a la lettre d'avocat. Ce qu'a dit la Guémara. Quand Aman, il a enlevé la tabarate, il a enlevé la bague, quand Achashverosh, il a enlevé la bague, il a donné à Aman, ça a fait plus d'effet que quand les 47 prophètes, ils ont fait des remontrances au Ram Israël. Parce que malheureusement, les gens, tant qu'il n'y a pas la médecine, après, pour les gens qui m'ont dit, mais pour les circonstances et pour l'horreur, et qu'est-ce qui se passe, et comment le bon Dieu l'a laissé faire ça. Je dis, écoute-moi bien, ça c'est très facile à répondre. C'est violent, mais c'est facile.
Cet argument, il a d'affirmé, le même jour, oui. Il a trouvé les trois étudiants.
Trois étudiants, ils étaient dans le Dafyomi, le jour même. Oui, ça c'est parce que c'est Fazdak, c'est Minachamay. Mais moi j'ai dit, écoute-moi bien, toi pourquoi tu es choqué? Tu es choqué du sang, tu es choqué de la mort, tu es choqué des tzadikim qui sont sacrifiés. Je lui dis, pourquoi tu n'es pas choqué de tous les jours où il ne se passe rien? Vous comprenez ou non? Parce que maintenant, on s'affole. Tu te rends compte, ils sont rentrés. Là, il a jeté de l'acide. L'autre, il a mis des coups de couteau dans un. L'autre, il est rentré en voiture. Non, je ne comprends pas. Ça veut dire que tous les jours où il ne se passait rien, tu as dit, c'est normal. D'accord? Mais le jour où il fait un attentat, tu dis, c'est pas normal. Mais je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui est plus incroyable? Un jour où il y a un attentat ou 3 ans où il ne se passe rien? C'est bien ou non? C'est-à-dire que si toi tu ne renforces pas ta émouna parce que tu vois un malheur, c'est parce que tu n'as pas renforcé ta émouna quand tu as vu le bonheur. C'est-à-dire que la normalité, mais c'est une bracha. Je ne sais pas si vous comprenez qu'on vient de passer une guerre avec Kippa de Barzel, ils ont envoyé plus de 2500 missiles, on n'a rien eu. Bah, au Hachem, il n'y a rien eu, d'accord? Ils se sont dit, on est bête d'envoyer, mais dans n'importe quel supermarché, ils vendent des couteaux. Tu rentres dans le supermarché, tu es un arabe là-bas, palestinien. Tu rentres dans un supermarché, tu prends un couteau, va chez elle, tu vas à la caisse, et quand tu arrives, alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre un soldat derrière chaque arabe? C'est impossible.
Ça s'est passé bien
sûr. De quoi je parle? Ouais. T'as compris l'idée ou non? Mais nous, encore une fois, on a des solutions. Soit on va faire comme les idiots, on va dire soit on va réfléchir. Peut-être on va réfléchir. Comme je te dis, le gars, il me téléphone, il me dit, Rabbi Chitrit, ma femme, elle est restée 17 heures au téléphone avec un gars. Je lui dis, c'est grave. Il me dit, bien sûr, c'est grave. Je lui dis, non, ce qui est grave, c'est comment ça se fait qu'elle a besoin de parler 17 heures avec un gars au téléphone. Si elle parle avec toi, elle n'a pas besoin. Donc, au lieu de me parler de ta femme, parle-moi de ton couple. Elle me dit, Alors quoi? Alors tout est permis, alors on peut faire ce qu'on veut. Je dis, tu peux pas jeter un gars de la voiture à 100 à l'heure et dire, j'espère que ça ira bien. Il va mourir. Au moins, il va être coupé en morceaux. Ben, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que quand la personne, elle est dans cette île bonénoute là, de dire, au lieu de regarder le symptôme, elle regarde le terrain.
Ouais.
Au lieu de regarder l'événement, elle regarde l'esprit. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Ouais. Que quoi? Qu'on est fort et qu'on est puissant et qu'on supporte la gay pride et qu'on développe la truc et qu'on casse ça et on enlève ça et on empêche les gens d'étudier la Torah et on a des discours antisémites envers les religieux. Mais qu'est-ce que tu prends à tout de suite? Le monde, il est comme ça. Oui. Mais rien que Gouche Katif, moi, la vérité, quand il y a eu Gouche Katif, je croyais qu'il allait avoir une bombe atomique en Israël. Je croyais, j'étais sûr. Parce que quand j'entendais des gens pleurer, je les entendais pleurer, en train de prier, j'ai dit, en tant que juif, vous savez qu'ils envoyaient des goïms là-bas, ils envoyaient des russes, parce que les juifs, ils ne voulaient pas, ils ne voulaient pas les enfants sortir de chez eux. Et c'est-à-dire qu'on est des juifs en train de sortir des juifs de maisons qu'ils ont construites pendant toute leur vie, parce qu'il y a un accord politique de Tchaloued de Baba. Tu entends pleurer, tu l'entends en train de pleurer, le gars en train de pleurer par terre, en train de prier. Ils font les shiramalot à l'intérieur de la synagogue, tu crois que le mur il va s'envoler de puissance, et tu supportes ça. Si tu supportes ça, ça veut dire que tu as un problème de sensibilité. Alors peut-être qu'il faut qu'on t'active un petit peu la sensibilité. Parce que là, tu es un petit peu insensible. Ah, quand il y a du sang, ça te dérange. Quand on coupe des mains, ça te dérange. Ah bon? Et quand il y a 10 000 filles tous les ans qui partent dans des villages arabes et qui les prostituent, tu es tranquille, tu vas à la plage, tu es tranquille. Pourquoi ça te dérange, ça te dérange pas? Ah, parce qu'il n'y a pas de sang. Quoi, tu veux les voir dans quel état ils sont, non? Comment ils les frappent tous les jours? Comment ils leur cassent toutes les dents? Tu veux voir? Moi j'ai vu ça, j'ai vu les photos. Ouais. C'est ça que les gens, on est un peu fous dans notre tête, on est fous. Ouais, c'est comme si tu avais un film d'horreur, après tu dis, bon, je vais boire un petit café, je vais aller dormir. Non, mais là, le film d'horreur, il s'est passé, c'est pas un film, c'est pas une mise en scène, c'est réel. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, il y a un problème de Hit Bonenout. Il y a un problème de prendre à cœur, il y a un problème d'être inscrit dans une réalité qui nous concerne. Maintenant, quand quelqu'un, encore une fois, il va chercher ça, il va chercher le miracle, il va essayer de voir le miracle. Ouais, et quand il va faire Modim, il va prendre conscience du miracle. C'est pas qu'il va dire merci, c'est pas qu'il va, parce que dans la partie de l'Amida, il y a écrit Modim. Non, il va faire le Modim en réfléchissant, il va dire le miracle. Encore aujourd'hui, le petit, il a truqué, encore il est tombé du vélo, il s'est rien passé, encore il a poussé son frère à côté du balcon. Il va dire Modim, le Modim réel, comme s'il fait le Gomel tous les jours. Ouais. Alors il dit, mais non, on avait demandé pour Yosef. Ouais. Pourquoi est-ce que Yosef, quand il est arrivé devant le puits, il a regardé à l'intérieur. Pourquoi il n'a pas dit, je vais faire la bracha sur l'endroit? Ouais. Bamakomazé, Chassalines Bamakomazé. Parce que le Midrash dit que Yosef, quand il est revenu de l'enterrement de Yaakov, il s'est arrêté devant le bord et il a regardé dedans. Alors le Meshech Chokhma, il demande pourquoi est-ce qu'il a regardé dedans? Ouais. Il aurait pu faire la bracha et partir. Il a dit non, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a regardé dedans? Itzitz Bebor, c'est quoi Itzitz Bebor? Parce que les Hatzitz, en hébreu, c'est voir. Ouais. C'est comme Tzitzit. C'est quoi Tzitzit? Tzitzit, c'est comme un aide-mémoire, un pense-bête. Tzitzit, c'est ça, ur item auto. Normalement, c'est pas des fils. C'est des fils qui te font penser à le nombre de nœuds, il te rend un truc, la couleur, le blanc sur le blanc. C'est fait pour ça. C'est fait pour te faire un flash. Yo, c'est fait pour ça. Si ça te fait plus rien, c'est dommage, c'est des ficelles. Alors accroche des clés, je sais pas moi. Fais quelque chose avec. Non, ça veut dire quoi? C'est fait pour produire un effet dans ta tête. Comme tu vois la mezouza, ça doit produire un effet dans ta tête. D'accord? La preuve, c'est que le décolleté te fait un effet. Donc la sniout, elle doit te faire un effet. Quand tu vois ta femme qui est noire, ça te fait un effet. Tu vois la chérina, tu dis, Baruch HaShem, que ma femme, elle est bien. Ouais. Mais quand si tu as ta femme qui est mal habillée, que tu vois tous les hommes, ils se retournent parce qu'ils voient un shawarma qui marche, ça te fait un autre effet. Comme tu vas avoir cet effet-là, tu peux avoir cet effet-là. C'est dommage. Parce que tu aurais pu avoir un effet dans la Kedusha et tu vas avoir un effet dans la Touma. Et après, la nuit, tu n'arrives pas à dormir et tu as des images pourries et tu fais la Amida et tu vois des images pourries. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu sais pourquoi? Parce que tu as été mitbonen dans la Touma. En fin de compte, c'est ça. Au lieu d'être mitbonen dans la Kedusha, tu as été mitbonen dans la Touma. Tu as attrapé l'image et tu as réfléchi, tu t'es fait un film et tout, il y a les célibataires et les trucs et en ce moment, il y a les gens. Qui sont en train de faire la itbonenout dans la Torah. Mais si la itbonenout, la réflexion constructive dans la Emouna, elle construit la Emouna, eh bien sache que la réflexion constructive dans la Touma, elle construit la Touma. Et tu vois, les gens, ils sont bnouim, ils sont construits dans la Touma. Ils ont des réflexes de Touma, ils ont des mentalités de Touma, ils ont des amis de Touma, ils ont des entourages de Touma. Le gars, il a une émouna dans la Touma. D'ailleurs, la preuve, quand tu lui dis, mais tu sais que le bonheur existe, il ne comprend pas de quoi tu parles. Parce que lui, il dit, mais il sait très bien que tout ça, c'est sexuel. Tu dis, non, mais il n'y a pas que la sexualité. Mais c'est la sexualité, qu'est-ce que tu parles, d'amour, de la tendresse. Mais en vérité, il a raison. Parce que pour lui, c'est que de la sexualité. C'est que du essai, c'est que du physique, c'est que de la matière. Il ne voit pas qu'il y a autre chose. Ça, toujours, je vous dis que l'essentiel est invisible aux yeux des gens superficiels. Donc quand tu construis ton essentialité, quand tu construis ta finesse, quand tu construis ta perception, quand tu construis ta adinout, oui, ta finesse d'esprit, et ben d'un seul coup l'univers il va changer. Comme le gars qui a jamais porté de lunettes, il dit ouais je vois bien. Le jour où il met des lunettes, il fait oh mais elle est magnifique là, oh, tous les détails, j'avais jamais remarqué combien il y a des détails. Oh là là, les ébrions du bois, oh là là, la couleur, oh il y a 19 nuances de couleurs là. Oh, il n'a jamais vu. Parce que lui, il voyait une masse grise comme ça. Ouais. Alors s'il ne voit pas les nuances de couleurs du marbre, tu crois qu'il va voir les nuances des midotes de sa femme. Alors qu'il regarde de la viande organisée plus ou moins harmonieusement. Donc tu comprends que l'Ith Bonenout, c'est pas un principe comme ça d'amélioration de ta réalité. En fin de compte, c'est ce qui va créer un contact émettre avec la réalité. Et émettre, c'est quoi? C'est pas que c'est vrai. Émettre, c'est que c'est intégré. Parce que si maintenant tu n'as pas intégré ta tefila, et tu n'as pas intégré ton Limouda Torah, et tu n'as pas intégré ta Yirat Shamayim, peut-être que tu es un robot. Peut-être que tu es en train de rêver que tu vis une aventure qui s'appelle le judaïsme. Mais tu n'as pas intégré ça. Maintenant, Hachem, Olam Haba, il ne va pas donner le Olam Haba à des gens qui ont rêvé qu'ils étaient juifs. Il va donner Olam Haba à des gens qui étaient juifs. Ben, c'est évident. Ouais. Mais le gars, il a bien rêvé. Hein. Vraiment, j'ai plané depuis le début. Hein. Le problème, c'est que les gens qui rêvent, de temps en temps, ils se réveillent. Et quand ils se réveillent, ça devrait être la fin du cauchemar. Mais celui qui rêve dans la vie, quand il se réveille, c'est le début du cauchemar, puisqu'il se rend compte qu'il avait rêvé. Donc c'est l'inverse qu'il faut faire. Ouais. Ce qu'il faut faire, c'est que quelqu'un, il est tellement dans la réalité, est tellement réfléchi dans la réalité, qu'il n'y a jamais de cauchemar, puisqu'il est tout le temps en train de construire. Donc le bien, il l'accepte, et le mal, il l'assume. Pourquoi? Avec l'Ith Bonenout. Donc qu'est-ce qui va lui arriver? Il n'y a pas de cauchemar. Parce que le cauchemar, c'est le refoulement. C'est le refoulement d'une réalité auquel je ne suis pas adapté. Et comment on appelle l'inadaptation à une réalité? On appelle le manque de Emouna. Donc il y a Yosef, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé. Pourquoi il a regardé? Parce qu'il y avait deux genres de miracles. Il y a un miracle, c'est vrai qu'il a été sorti du trou. C'est vrai. Et il y a un miracle, c'est vrai qu'il est devenu prince en Égypte. Ça s'appelle les miracles qui sont voyants. Mais il y a aussi des miracles qui n'étaient pas voyants. Et la preuve, c'est qu'ils ne sont pas explicites dans la Torah. Parce que, bon, Rek en Bomaim, ouais, il y a écrit qu'il était vide, il n'y avait pas d'eau. Il n'y a pas écrit qu'il y avait des scorpions et qu'il a été sauvé. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Nissim Nistarim. Vous me suivez ou non? Toi, quand tu roules, tu traverses le carrefour. Mais tu ne vois pas le miracle qu'une seconde après, il y a un gars qui a brûlé le feu rouge derrière toi, il a fait 8 morts. Toi, tu es passé, tu as continué ta route, tu es arrivé au magasin, tu as travaillé. Une seconde après, l'accident est arrivé derrière, tu as entendu. Tu ne l'as pas vu parce que toi, tu as tourné à gauche. Le gars, il y a 8 morts derrière. Tu vois, ça s'appelle les miracles qui sont cachés, Nistarim. Miracles Nistarim, cachés, ouais. Tu es arrivé une demi-heure après l'attentat. Mais tu prenais ce chemin tous les matins. L'autre, il était dans cette. Il prit dans cette synagogue, là-bas. Le Cohen est sorti pour faire une tilat. Il est sorti pour faire une tilat. Il entend des cris, il revient. Il voit les gars en train de se faire égorger. Celui-là, il était sauvé par les tétérés. D'accord. Un autre, il a poussé. Il a jeté par terre. L'arabe, il a regardé. Il a dit va-t'en. On ne sait pas. Peut-être qu'il le connaissait du magasin, on ne va pas savoir. Peut-être qu'il lui donnait un bon pourboire tous les matins, parce qu'il travaillait en face. Oui, l'arabe travaille en face. D'accord. Non, ça veut dire que celui-là, il a été sauvé, celui-là, il est mort. Tu vas faire des calculs, toi, pourquoi et comment, pourquoi. Celui qui a été sauvé, eh bien, il doit dire merci. Et celui qui est mort, il doit accepter le jugement. Et là-bas, tu veux réfléchir? Alors, vas-y, réfléchis jusqu'à la fin des temps. Les Gilgoulim remontent que le gars, il y a 19 siècles, il a violé sa sœur et c'est pour ça qu'on lui a coupé les mains. Parce qu'il a mis la main là où il ne fallait pas. Vas-y, va réfléchir. c'est marqué ici. Que chez Yosef, il y avait des miracles qui étaient voyants et des miracles qui étaient cachés. Le Midrash, il dit que ses frères, après qu'ils l'ont jeté dans le trou, même moi je ne connaissais pas ce Midrash, ses frères, ils lui ont jeté des pierres pour le tuer. Dans un trou, ce n'est pas évident de se sauver des pierres, des grosses pierres. On te jette des rochers dans un couloir, comment tu vas faire? Il est sorti vivant, d'accord? Quand il est arrivé dans la prison, le chef de la prison, tout de suite, il l'a apprécié. Ce n'est pas évident, il y a des centaines de prisons, ouais, et il a été bien apprécié. Après, dans cette prison-là, il y a les deux princes, là, à la fin de la paracha, ils sont arrivés, ouais, il les a rencontrés, ils ont besoin qu'on interprète les rêves, et lui, il s'est interprété les rêves. Tout ça, ça s'appelle Nissim Nistarim. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout, c'est, tu peux, quand il a regardé dans le puits, ça veut dire quoi? Itzit, Bebor, Betor, Habor, ça veut dire qu'il a regardé, il a réfléchi à tous les miracles qu'Hachem lui avait donnés. Pas seulement le fait qu'il a été sauvé, parce qu'il a compris que ça impliquait ça. Il dit cette logique-là, on a dit que qu'est-ce qu'on a fait? On a mis ce Mahamar-là, parce qu'il a de Rabbi Tanhum, juste à côté du Mahamar, qu'on a dit que Souka, Sheilema, Alam, Michaf, Ama, Psula. Ouais, si le nerf, s'il a mis la Chanoukia, le nerf, il a mis les mains, il a mis ce Mahamar, Psula. On a demandé, mais quel rapport? Parce qu'il y a deux Mahamarim de Rabbi Tanhum, ouais, ce Mahamar. Que quand c'est plus haut que 20, la Chanoukia c'est pas souffle, et ce Mahamar de Yosef. Quel rapport entre les deux? Maintenant on commence à comprendre un petit peu, c'est quoi? Parce que pourquoi la Chanoukia quand elle est plus que 20 mots, elle est psoula? Pourquoi la Souka quand elle est plus que 20 mots, elle est psoula? C'est le premier mot de Souka, parce que l'Agma a dit pourquoi? Deloshat tabarina, c'est-à-dire que tes yeux ne vont pas jusqu'à 20 mots. C'est comme quand tu es dans la gare de Milan, d'accord? La gare de Milan, le plafond est tellement haut que tu ne sens pas que tu es dans un bâtiment. Parce que c'est grand. S'imagine s'il y avait des grandes portes de chaque côté avec les courants d'air, tu croirais que tu es dans la rue. Après, tu fais comme ça, tu fais. Waouh! Oui. Donc, l'oshtal tabarina, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes yeux, ils n'atteignent pas cette hauteur-là. Donc, tu ne te rends pas compte que tu es dans une souka. Or, comme le principal de la souka, c'est de sentir que tu es dans l'ombre de la souka. Donc, si c'est trop haut, tu n'es pas dans l'ombre de la souka. La Chanoukia, c'est quoi? C'est Pirsoumanes. Si les yeux, ils rentrent pas dans cet angle-là de 10 mètres de hauteur, donc ça rentre pas dans Pirsoumanes. Parce que quand les gens, ils marchent dans la rue, les gens, ils regardent 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, ils vont pas faire comme ça. Donc toi, tu n'es pas quitte de la mitzvah de Pirsoumanes parce que c'est trop haut. Ça, c'est la lecture au niveau pshat. Mais au niveau un peu plus profond, c'est quoi de l'oshal tabarena? C'est quoi? Hein? Alors, ça c'est un peu rapide, mais bon, laisse-moi compliquer. C'est quoi? C'est parce qu'on dit Mash nirnas tachat eno shel adam zeh makom shelo. Ouais. Ce qui rentre dans l'œil de quelqu'un, c'est ça son makom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tu vois, ce que tu vois, on a expliqué déjà ça plusieurs fois, ce que tu vois, c'est ce que tu dois voir. D'accord? Et ce que tu vois, c'est ce que tu veux voir. Maintenant, si toi tu as une certaine sensibilité, tu vas voir grand. Si toi tu n'as pas de sensibilité, tu vas voir petit. Comme dans le business. Il a un format d'être vendeur. L'autre, il a un format d'être patron. L'autre, il a un format de tenir 14 magasins. L'autre, il a un format de tenir une petite épicerie. Tu dis, ouvre une deuxième. Je n'arrive pas. C'est compliqué. Les factures, les stocks, les listes d'agères. Il faut visser l'étagère, elle va tomber. Mais qu'est-ce que tu t'occupes de l'étagère? Voilà. Il y a 14 camions qui arrivent. Le gars, il n'a pas le format. C'est un format. D'accord. C'est de la gestion, c'est un format. Alors maintenant, c'est pareil ici. Il dit, ça s'appelle Aino chez la dame. Le en Adam, l'œil de l'homme, ouais, on appelle Aïn Tova ou Aïn Ra'a. Aïn Tova, c'est un œil rachav, et Aïn Ra'a, c'est un œil katsar. Ça s'appelle Tsarot Aïn. La personne, elle voit petit. Les gens, ils voient petit. Tu fais, voilà, le bébé, il est né. Fais une brite mila. Fais un bon repas. C'est bien, si tu peux même faire de la viande, même si tu veux. Ah, tu sais, on va faire 3 bislis, un cafolé, et les gens, 6 enfants, ils vont aller. Pourquoi tu fais mesquine? On dit que la générosité que tu mets dans le repas de la Brit Mila, il va donner un Talmid Chacham. Il va faire un enfant Talmid Chacham. Ouais. Fais une belle souda, au moins un minyan, avec Motsi, avec les gens, ils font 3 gâteaux. Il va être un Chacham, l'enfant. Tu fais, non, c'est à quoi ça sert? C'est quand même beaucoup d'argent. C'est dommage. Parce que les 7800 heures de cours que tu vas lui donner pour qu'il devienne Chacham, ouais, et la souda à 400 euros. Vas-y, réfléchis, fais ton calcul. À 20 euros le cours. Et l'autre, il est chacham. Naturellement, lui-même, il prend le soir, il prend sa Gemara, il révise tout seul. Tu dis, oh, c'est combien t'as économisé là? C'est que nous, on fait des calculs de mesquine. Pourquoi? Parce que Aïn Sarah, petit œil. Maintenant, toi, tu vois large. Maintenant, Aïn Tova, Aïn Tova, ça veut dire que tu vois grand, tu vois énorme. Il dit maintenant, Machinichna, Stachat Eno chez la dame, c'est ça son Makom, celui-là il voit grand. Ouais, celui-là il dit, viens, on va aider 10 000 juifs. L'autre il dit, bah, c'est déjà pas mal si tu aides un. L'autre il dit, bon, viens, on va faire une belle synagogue. Il dit, ah, prends un préfabriqué ou une cave, un trou. Non, viens, on fait Kavod Hashem. Viens, on fait Kavod Hashem, qu'est-ce que ça peut te faire? De toute façon, Hashem il peut donner 1 000 000 d'euros, il peut donner des 10 000 euros. Non, fais Kavod Hashem, ouais. Un Sefer Torah, la dame d'une photocopie, un beau truc, un beau Sefer Torah à la méadrine. Ah mais c'est cachère, il paraît que c'est cachère. Il y a une chita, là-bas dans la jungle, c'est la chita du chita, c'est un singe. Ouais. Non, toi tu veux un truc, la méadrine, les coulalma, c'est pas un migvé, c'est un trou, ça, c'est un caniveau. Tu dis, ben, c'est un migvé, il y a une déra comme ça à Constantinople, ils avaient permis de, ouais, d'aller dans le caniveau. Non, je veux les coladiotes, je veux un migvé, les coladiotes. C'est-à-dire que la personne, en vérité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a ouvert son esprit, elle a ouvert son œil, elle voit les choses en grand. Il dit que c'est exactement pareil ici. Ici, que la personne, elle arrive à rendre le miracle visible. Maintenant, c'est quoi visible? C'est visible dans ta tête à toi. D'accord? Donc, visible, c'est pas seulement ce qui apparaît dans l'œil, c'est aussi ce que tu fais apparaître. C'est pas seulement ce que tu vois, c'est ce que tu fais être voyant. Or, ce que tu vois, c'est ce que tu crois. Maintenant, quand on dit que la Chanukia, elle est Deloshal Tabarena, ça veut dire qu'elle ne produit pas un effet de Emouna chez toi. Maintenant, chaque personne, en vérité, c'est une Chanukia. Normalement, je vous dis la vérité, un juif, quand il marche dans la rue, les juifs et les goïms, en le voyant, ils doivent dire Dieu existe. C'est ça un juif. C'est ça un juif. Juif, c'est pas une chapeau ou un truc. Non, non, non. Le gars, il ne doit pas avoir un chapeau, il ne doit pas avoir une barbe. Il doit avoir de la chorma, il doit avoir de la crainte d'Hachem, et il doit dire Dieu existe. Quand il voit, même un goy, il dit écoutez, Dieu existe. Je vous ai dit, j'ai refait le cours avec les goïms il y a 2 dimanches. Vous avez raconté ça là? Non? 2 ou 3 fois par an, je vais dans un truc. Vous tapez sur internet Quantique Planète. Là, c'était à Aix-en-Provence, il y avait 500 personnes. D'accord? Maintenant, ils donnent des. Il y a que des médecins, des mathématiciens, des généticiens, des tralouédaciens et des. Et moi, je dois parler. Eux, ils ont 1 heure, moi, j'ai 1 heure et demie. C'était sur le cancer. Maintenant, il parle de la maladie, d'un truc, et moi je dois parler le rapport que l'homme entretient avec la réalité, et que le symptôme c'est le mal-être, et que le mal-être c'est le contraire du bien-être, et être c'est le rapport avec la réalité, et mal-être c'est le non-rapport avec la réalité. Donc, comme il y a 2 cellules, elles se nourrissent l'un l'autre, sinon il y a le cancer. Alors, il y a une cellule qui s'appelle ta femme, une cellule qui s'appelle toi, les échanges entre les cellules. Sinon, le cancer du couple c'est qu'il y en a un des deux qui sent plus qu'il existe. Donc, on voit tout un développement pendant 1 heure et demie. Alors, maintenant, moi j'ai fini le cours, il y avait le silence dans la salle, tous avec les ordinateurs. En train de taper, moi je parle. Ouais. Le lendemain, la femme qui organise le congrès, elle me dit, Rav Ben Shefi, dites-moi la vérité. D'accord? Je dis quoi? Elle me dit, vous étiez connecté. Je dis, c'est quoi sur Internet? Elle me dit, non, ça, vous étiez connecté, c'est pas possible. Connecté, genre avec le bon Dieu. Elle me dit, c'est pas possible. Elle me dit, les gens, ils sont venus, il m'a raconté ma vie. Ben, c'est trop à l'intérieur, c'était fort, c'était intense. On était tous en train de vibrer. C'est des goïms. Je sais pas si tu vois un peu le. Des goïms comme ça. Ils t'attendent, tu finis, il y a 350 personnes qui t'attendent pour dire Hazak Obaro, Kolak Avod, j'éduque mes enfants selon vos préceptes, je vous suis depuis des années sur Internet. Chapeau. Quel chapeau, tu dis, mince, c'est trop facile avec les goïms. Ouais. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est quoi? C'est que la personne, en fin de compte, quand elle laisse la vibration, lorsqu'elle laisse la sensibilité, lorsqu'elle laisse la sincérité, elle décolle. Mais comment ils appellent? Eux, ils appellent ça connecté. Genre, c'est pas juste que tu vas émettre un message ou que tu développes une thèse ou que tu apportes un argumentaire. Non, il s'est passé quelque chose là. Il y a eu un événement. Ouais, c'est une vibration, c'est fort. Ah non, nous, on trouve ça normal parce qu'on a l'habitude. Ouais. Mais c'est faux, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Quand tu as la chance de rencontrer, moi je vois des tzadikim, je vais prendre des brachot et tout ça, je reste à côté. Il me dit, bon, c'est bon, il t'a brisé. Je reste un petit peu, je profite encore. Prends la bracha. Tiens-lui la main, tu fais genre t'as pas compris. Le chamash il dit non, non, toi tu. Prends, profite. Si tu vas aller embrasser un poteau, voilà, prends, profite. Ouais. Mais ça veut dire quoi? C'est que tu sais qu'il y a des forces qui sont différentes de la réalité. Il y a des forces qui sont différentes de ce que tu vois. C'est pareil, l'amour de ta mère, c'est du 100%. L'amour de ton père, c'est du 100%. L'amour des enfants, c'est-à-dire, il faut aller chercher cette essentialité. Il dit, mais non, quand tu le fais, toi, qu'est-ce que tu fais en vérité? Tu es modé dans les nissim anistarim. C'est-à-dire que tu fonctionnes avec le côté invisible des choses, pas que le côté visible. Maintenant, le fait de vivre avec le côté invisible, on appelle ça la Emouna. Maintenant, si toi, tu fais ce travail-là, jour après jour, parce que tous les jours, tu vas faire, ouais. Alors, on a dit, qu'est-ce que tu fais? C'est des Shalta Ba'ina. Ça veut dire que ta Emouna, elle te permet d'apprécier dans la proximité de tout ce qu'Hachem te propose. Ouais. Donc, on a dit, pourquoi est-ce qu'on a mis les deux Ma'amarim l'un à côté de l'autre? Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Il a regardé dans le bord et il a perçu. Et toi, qu'est-ce que tu es? Tu as mis ta Hanoukia trop haut, alors on ne peut pas percevoir. Maintenant, pire sous ma Nes, c'est quoi? C'est que l'autre voit le Nes, ouais, ou que toi, tu vois le Nes. Vous savez que si vous n'avez pas allumé, vous pouvez faire la bracha sur un allumage de quelqu'un d'autre. Quelqu'un est allumé, toi, tu es seul à New York et il n'y a personne chez qui est allumé, tu es à Shanghai, et tu vois une Hanoukia, tu fais la bracha. D'accord? Pourquoi? Parce que le pire sous ma Nes, il est des deux côtés. Celui qui allume et celui qui voit. C'est les deux côtés. Donc maintenant, quand toi, en vérité, tu perçois cette occasion de Emouna, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux faire évoluer quelque chose à l'intérieur de toi-même. Maintenant, à l'époque, Bayami, Ma'em, Bazemanazé, il y a eu le miracle. Maintenant, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu dis, moi aussi, moi, aujourd'hui, je veux encore être impressionné par le miracle. Je veux être marqué par le miracle. Ouais. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a mis Alanissim juste après? On a mis Alanissim juste après Maudit. On ne l'a pas mis après Retsé. Ouais, pourquoi? Parce qu'on veut que la perception du miracle, tu comprennes, que c'est le miracle du quotidien. C'est que celui qui ne voit pas le miracle du quotidien, il ne peut pas voir le miracle extraordinaire. Celui qui ne voit pas le miracle de tous les jours, il ne peut pas voir le miracle de Hanouka. Il ne peut pas comprendre. Ouais. Donc quand tu as fini Modim et tu as dit Al-Nisikha Shebechaliyog, après tu dis Al-Anissim. Parce qu'en fin de compte, c'est la continuité. Ça veut dire que l'emprise de l'extraordinaire, elle est dans l'ordinaire. Et l'emprise du surnaturel, elle est dans le naturel. Maintenant, si toi, tu n'es pas capable de voir le miracle du naturel, alors ça s'appelle Enlo Helek Batorat Moshe. Oui, tu n'es pas Enlo Nichnas Bemechitsato Shel HaKadosh Baruch Hu. Tu n'es pas dans la Mechitsa. Tu n'es pas dans les Arbavot HaKadosh Baruch Hu, parce que les miracles, ils ne sont pas une fois de temps en temps. Ils sont tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Maintenant, toi, tu le maîtrises ici et tu le développes là. Maintenant, comment tu sais si le miracle, tu as une perception du miracle, ou si tu as été choqué par quelque chose d'incroyable? C'est seulement si ça t'a fait évoluer dans la spiritualité. Si tu as grandi dans la Rouhaniout, tu vois que le miracle, il a servi à quelque chose. C'est pour ça que le Ran, il pose la question. Il dit, mais comment ça se fait qu'on fait 8 jours de Hanouka alors que le premier jour, il y avait de l'huile? Donc en fait, le miracle n'a duré que 7 jours. Premier jour, ils avaient de l'huile. D'accord? Les 7 jours d'après, il y a eu un miracle, ça a brûlé. Donc en fait, nous, on fait 8 jours de fête. Mais il n'y a pas 8 jours de miracle. Alors comme il y a la Gemara dit, comme il y a eu un miracle de la fiole d'huile, et que l'année d'après, ils ont fixé Yamim Elou, les Halel Ve'Oda'a. T'as compris maintenant? Ouais. Tout la fête de Hanouka, c'est quoi? C'est la louange et la reconnaissance. C'est tout. C'est louange et reconnaissance. De dire merci. D'accord? Savoir dire merci. Maintenant, alors on dit, mais pourquoi je vais dire merci 8 jours? Je vais dire merci 7 jours. Puisque si tu me dis que le miracle, il est à cause de la fiole d'huile, elle a brûlé, le miracle d'huile a duré 7 jours, elle n'a pas duré 8 jours. Alors le Ran, il répond, il dit que le premier jour, c'est pour le miracle de la guerre. Le fait qu'on a gagné la guerre, ouais. Alors pour ça, on a fixé un premier jour de fête. Et après, puisque le miracle de l'huile a duré 7 jours, on a rajouté 7 jours en plus. Vous me suivez ou non? D'accord? Alors moi je dis, mais pourquoi on n'a pas fait le contraire? Pourquoi on n'a pas fait 7 jours de fête pour le miracle de la guerre et un jour pour le nerf? Parce qu'il était petit le miracle du nerf par rapport à toute la guerre qu'on a gagnée. Ouais. Alors l'idée elle est incroyable. Premièrement. Et deuxièmement, pourquoi est-ce qu'ils, pour fêter la fête de Hanouka, ils ont choisi de brûler des nérotes? Tu dis, bon, parce que c'est le miracle qu'il y a eu. Non, on aurait pu faire autre chose. On aurait pu faire autre chose. On aurait pu faire des gâteaux, on aurait pu faire un repas. Non, tu dis, non. Tu vas t'asseoir, allumer des nérotes et regarder des nérotes qui brûlent. C'est tout. C'est, tu fais rien. Ouais, tu ne peux même pas tirer profit. Alors l'idée, c'est comme ça. Alors le Rav de Klosenborg, il a expliqué comme ça. Il a dit, c'était quoi l'intérêt? L'intérêt, ouais, le plus grand miracle, c'est qu'on a gagné la guerre. Maintenant, ce miracle-là, il n'a de valeur que parce que, grâce à ça, on a compris qu'Hachem a fait le miracle. Maintenant, comment on a su qu'Hachem a fait le miracle de la guerre? Parce qu'on a vu qu'il avait le miracle de l'huile. Donc c'est le miracle de l'huile qui va dévoiler que le miracle de la guerre est un miracle. Parce qu'on aurait pu croire que la guerre, on l'a gagnée parce qu'on est des gens intelligents. Parce qu'on a fait la guérilla, parce qu'on a attaqué tous les côtés. Ouais. Alors il dit le Kiddush Hashem, que les gens, ils ont pu dire Hashem Ish Milchama. Hashem Ish Milchama, c'est Hashem qui a gagné la guerre. Pas le contraire. D'accord? Alors moi, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on va faire un petit miracle pour dévoiler un grand miracle. Parce que le grand miracle, si tu n'as pas compris que c'est un miracle, il perd son caractère de miracle. Alors maintenant, le miracle de la guerre, c'est comme le quotidien. Et le miracle, truc, c'est qu'au dernier moment, l'affaire elle a été sauvée, l'Orav il a fait la bracha, ça a marché, l'enfant il a été truqué. Donc toi tu croyais, avec les grands médecins, avec les grands trucs, d'accord? Les médecins ils se disent, il va mourir. Et par hasard, il y avait dans la ville un grand Mekoubal, il est venu, il t'a écrit un petit papier, tu l'as donné, tu l'as mis sur la tête de l'OD. Les médecins ils ont dit, écoutez, on ne comprend pas ce qui se passe, il avait 45 bactéries, dont 3 inconnues, il était condamné à mort et il s'en est sorti. Donc c'est tu quoi? Tu dis, il y a tout le système du quotidien et il y a le miracle à la fin. Et le miracle de la fin, il t'explique en fin de compte. La santé de tous les jours, la santé quotidienne, c'est un miracle. D'accord? Maintenant, c'est pour ça aussi que ce miracle-là, il n'a été possible qu'avec de l'huile pure. Tout le monde connaît cette question. D'accord? Ils avaient au moins 400 000 litres d'huile qui était impure. Parce que les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rendu impure toutes les huiles. Mais il y avait seulement une fiole d'huile qui était pure. Alors pourquoi ils ont voulu faire ça avec la fiole pure? Ils n'avaient qu'à prendre de l'huile impure, parce que quand la majorité du peuple est impure, on a le droit de faire la mitzvah de la menorah avec de l'huile impure. Alors pourquoi ils ont fait? Alors pour expliquer ça, j'ai donné un exemple. Vous savez qu'il n'y a pas très longtemps, il y a eu cette guerre-là, d'accord? La guerre de Gaza. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont enlevé les trois jeunes gens, les trois bachouris, ils les ont enlevés. Après, pendant 18 jours, on les a cherchés. Quand on les a cherchés, on a trouvé les tunnels. Quand on a trouvé les tunnels, on a vu le plan qu'ils préparaient. Quand on a vu le plan qu'ils préparaient, on a sauvé une catastrophe qu'à Rosh Hashanah, ils allaient rentrer par milliers, ils allaient tuer des milliers de juifs. Et ils ont détruit les tunnels, ils ont détruit leurs armes, ils ont détruit leurs trucs, on n'arrive plus. Non, mais tout ça, c'est venu de quoi? Parce qu'on a cherché. Parce qu'on a trouvé les tunnels. Pourquoi on a trouvé les tunnels? Parce qu'on a cherché les jeunes gens. Pourquoi on a cherché les jeunes gens? Parce que les trois jeunes gens, ils ont été enlevés. D'accord? Maintenant, vous savez, le Rav Grossman, de Migdal Haemek, oui, vous avez entendu cette histoire avec un des trois jeunes? T'as pas entendu? Oh, sortez un petit peu, sortez, ouvrez vos yeux.
Yeshiva, toujours.
Il était ici.
Il était ici.
Alors, Grossman, il a raconté cette histoire? Elle est incroyable, écoutez bien. Moi, je l'ai lu, quelqu'un m'a montré. Écoutez, il y a 3 ans, un des enfants, il avait 16 ans. Moi, je ne me rappelle pas son prénom. Et il avait 16 ans. Et 3 ans avant, il avait sa bar mitzvah. Et quand c'était le moment de sa bar mitzvah, son père, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Ouais, tu veux. Il a dit, je veux avoir un rendez-vous avec le Rav Grossman. Quelques minutes avec lui. Le père, il a dit, mais je comprends pas, tu veux pas que je te... un vélo, une moto, un voyage en bateau à Eilat? Il a dit, non, je veux quelques minutes avec le Rav Grossman, j'ai besoin de lui parler. Bon, alors il a dit, bah alors prends le téléphone, et téléphone. Il a appelé l'enfant, il a téléphoné au secrétariat, il a dit, voilà, je voudrais avoir un rendez-vous avec le Rav Grossman. Il a dit, mais qui vous a dit? Il dit, voilà, j'ai un enfant de 13 ans, j'ai pas ma mise, j'ai demandé ça comme cadeau. Le gars, il a dit, excuse-moi, mais le Rav Grossman, il gère des centaines d'écoles et des collèges et des trucs, il n'a pas le temps de. Il a raccroché. Et l'enfant, il était déçu. Alors son père, il a dit, non, il n'a pas voulu. Il a dit, quoi? Il a pris le téléphone, il a dit, écoutez, vraiment, mon fils, il tient à ça, je peux lui offrir tout ce qu'il veut, il veut un rendez-vous avec le Rav, je vous en prie, même quelques minutes, faites-lui plaisir. Bon, le secrétaire, il a été ému, il a dit, bon, allez, ok. Et il a dit, écoute, il vient d'Amérique pour un jour et il repart le lendemain, il repart en Chine, je sais pas quoi. Il a que quelques heures à rester en Israël. Alors il va falloir faire très vite, il n'y a pas de problème. Ils sont venus là-bas, ils ont attendu, le Rav il est arrivé. Le Rav il a dit, écoutez, voilà, le secrétaire il a dit, écoutez, Raf, faites-moi une tova. Cet enfant-là, il veut vous parler un petit peu. Ça ne vous dérange pas de le recevoir quelques minutes. Comme ça, vous lui faites le bracha et il part. Maintenant, le Rav il devait rester 2 minutes avec lui. Il est resté 1h15. 1h15. Ouais. Au lieu de dire bracha maslacha, 1h15. Quand il est sorti, son fils, il a dit, le père, il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, bah, j'ai posé des questions au Rav, il a répondu. Mais ça a pris du temps pour répondre. Et qu'est-ce que tu lui as posé comme question? Il a dit, j'ai posé 2 questions. Il a dit, moi, je veux savoir comment je peux faire le plus grand chesed à la plus grande partie de, au plus de Bnei Israël. Quel chesed je peux faire, le plus grand chesed que je peux faire? Maintenant, je suis bar mitzvah, je veux faire le plus grand chesed que je peux faire au Bnei Israël. Il a dit, deuxièmement, il a dit, je voulais qu'il m'explique c'est quoi la mitzvah de Kiddush Hashem. Comment on sanctifie le nom de Dieu en public. Cet enfant-là, maintenant, 3 ans après, il a été enlevé. D'accord? Ils l'ont tué. On l'a recherché. Ils ont trouvé les tunnels. Ils ont fait la guerre. Ils ont détruit les tunnels, ils ont détruit les armes. Mais aussi, il y a eu des centaines de miracles pendant la guerre. Il y a des milliers qui ont fait teshuvah de cette guerre. Ils ont distribué des tas de katan, ils ont pris sur eux de faire le Shabbat, et d'autres ils ont fait des prières, les Lubavitch ils ont donné des tefillin, ils ont fait des trucs, mais il y a des miracles, même à l'intérieur, vous savez. Moi, quelqu'un il m'a raconté, il était là-bas, il y a un des miracles, ils ont comme un camion comme ça blindé, Alors à l'avant, il y a deux gars qui conduisent. Et à l'arrière, il y a 12 soldats. Ils sont 6 et 6 assis comme ça sur une banquette. Ils sont l'un en face de l'autre. Et à l'avant, c'est tout blindé. Il y a un trou comme ça pour voir ce qui se passe. Et à l'arrière, il y a un petit trou comme ça pour tirer ou truquer. Il a dit, il y a un Palestinien, il s'est mis au milieu, il avait un lance-roquette. Il a tiré une roquette. La roquette, elle est rentrée par le trou de devant, elle est sortie par le trou de derrière. Les gars, ils étaient assis, ils ont vu la roquette passer. Ça en probabilité, c'est une chance sur un milliard. Ça, c'est un miracle. Il y a eu des centaines de miracles. D'accord ? Maintenant, réfléchis bien. Tous ces gens-là là, qui sont réveillés, qui ont fait teshuva, tous les gens qui ont pris sur eux, tous les gens qui ont prié pour qu'il n'y ait pas de barzin, tous les gens qui sont envoissés, tous les gens qui se sont pas invités pour le Shabbat, tous les gens qui ont invité des gens qui étaient dans le nord et dans le sud, tout ça, de quoi? D'un petit jeune homme qui a dit comment on va faire pour faire un chesed à la majorité de sauver la vie de milliers de juifs. Ouais. Tu sais comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle une petite fiole d'huile pure. Bon. De l'huile impure, tu peux faire les mitzvot, mais il n'y a pas de miracle. Pour faire un miracle, il faut une petite fiole d'huile pure. Pure. Le gars, il n'a rien. Un petit jeune homme de 13 ans, dans un truc comme ça, Mizrahi, qui bouge ce truc, le gars, il aurait pu dire, bon, moi, je vais à la page, qu'est-ce que je vais faire? Non, je vais kiffer les meufs. Non, le gars, il va voir un rave pour savoir comment on fait Kiddush Hashem. C'est quoi la mitzvot Kiddush Hashem? Il t'a que ça à penser, toi. Vous suivez ou non? C'est pas normal. Ça veut dire, celui-là, il a le chotem du Kohen Gadol sur la tête. Il a le tampon du Kohen Gadol. Et lui, il peut provoquer une chose comme ça. C'est-à-dire que quand tu vois qu'à la fin, que la guerre, elle a provoqué de la tchouva, que les juifs se sont rapprochés, que les hassidim se sont rapprochés des mitnagdim, et que les avrechim sont restés au kollel, parce que c'était la guerre, que les hassidim ont envoyé leurs enfants à l'école pour continuer à étudier la Torah, que le gouvernement, il y a des lapides et des habibites qui sont mis à faire la prière. Ça, cette lumière, elle vient parce qu'il y avait de l'huile pure au départ. Alors c'est ce qu'il dit le Rav de Closenbourg. Si tu vois que la milchama, elle amène un miracle, et que ce miracle, il amène de la Torah, il est marmé de la Torah de la Teshuvah, ça valait la peine de faire la guerre. Ça valait la peine de gagner la guerre. Sinon, chaval al-Azman. Parce que si tu gagnes la guerre, et tu crois que tu l'as gagnée parce que tu es un super armé, alors ça veut dire que maintenant les goyim ont gagné. C'est exactement pareil. Toi, tu vas éduquer l'enfant, tu vas construire ton couple, tu vas étudier la Gemara, tu vas faire les tefillah. Mais si tu vas voir, si tu vois que ça évolue dans la spiritualité, si tu vois que tu t'élèves et que tu t'améliores et que tu t'affines, tu dis ça valait la peine de faire les jetadou. Ouais. Mais si tu vois, Chazvei Shalom, que ça amène à Khidou Hashem parce que tu étais monté très haut, tu es descendu très bas, ouais, et que tu as fait attention à la cache-croûte pendant toute l'année et que pendant l'été tu as été manger ta rêve sous prétexte qu'il n'y a pas de cache-croûte là où tu vas, tu vas reprendre la cache-croûte de l'année, c'était quoi? C'était du folklore. Donc tu dois voir tout le temps qu'en fin de compte, qu'est-ce que tu fais? Tu fais Milchama et tu fais Hanouka. Tu fais Milchama et tu fais Hanouka. Tu fais l'effort et tu as la lumière. Tu fais l'effort et tu as la lumière. Maintenant, la lumière de la fin, elle va prouver. C'est pareil. Quand tu as la Koupa et tu vois les Rabbanim et tu vois les Tzadikim et tu vois, tu dis, oh, ce Khatan et ce Kala, ils ont quelque chose. Ouais. Tu vois la Bar Mitzvah, tu vois la Kedusha et tout ce qui se passe, tu vois quelque chose. Tu vois que l'enfant, bon, si tu lui dis, tiens, mon fils va prendre une bande dessinée, il dit, non, je vais réviser la Gemara. Tu dis ça. Ça, c'est Hanouka, ça. C'est Hanouka, c'est ça, Hanouka. Hanouka toute l'année, ça. Ouais. Une dame, elle m'a téléphoné pour un chidour, pour quelqu'un, pour un neveu, quoi. Elle m'a dit, bon, Rav, qu'est-ce que vous pensez de ce garçon? Je lui dis, écoutez, j'en ai des neveux, mais le seul que j'ai vu, que le Shabbat après-midi, au lieu de s'asseoir sur le canapé, il prenait un kovet shiurim pour aller s'asseoir dans une chambre, c'est lui. Je lui dis, vous pouvez faire le shiur. Parce que t'es pas obligé, hein. C'est pas la yeshiva, c'est Shabbat Rofesh, tu es en vacances. Alors, le kovet shiurim, c'est pas facile, c'est pas un mirage, c'est un roma, hein. C'est... faut se casser la tête, hein. C'est des cheshbonot et tout. Le gars, il prend son kovet shiurim, le Rav Elchanan Wasserman, il va se mettre dans une chambre tout seul, Shabbat après-midi, il fait chaud, en train de suer sur le Rav Elchanan. Celui-là, c'est... ça c'est Hanouka, ça. Celui-là. N'aie pas peur pour lui. Si les gens ils vont se battre pour faire un chidour. Il va rien demander, il est tranquille, il demande rien, mais tout le monde. L'autre, je comprends pas, qu'est-ce qu'il manque, je suis habillé, j'ai Zara, j'ai le chapeau, j'ai Borsalino. Chasser, c'est beau comme un grec. Chasser le principal, chasser. Ika, chasser mina sefer. Ouais, il manque le principal. C'est exactement pareil. Si la personne elle prend à cœur et elle va dans cet esprit-là, ouais. De dire maintenant j'ai compris, maintenant je veux que ma vie soit Hanouka, mais toute l'année. C'est pour ça qu'on doit s'asseoir devant la Hanoukia et qu'on ne peut pas tirer profit. Donc on dresse comme ça. Ouais. Mais tu ne peux pas manger, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas. Bon, maintenant ils offrent le cadeau parce qu'ils essaient de faire plaisir comme c'est bientôt la fête la négation de Dieu. Ils ont fêté une fête pour nier Dieu. Ça s'appelle Noël. Noël. Il n'y a pas de Dieu. D'accord. Mais. Alors, les gens, ils ont pris l'habitude d'offrir des cadeaux à Hanouka. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? C'est que tu t'assois. Ouais. Alors, tu ne peux rien faire. Même les femmes, elles doivent s'arrêter de travailler pendant l'allumage. Mais par contre, tu peux être une bonnette, tu peux réfléchir. Tu peux réfléchir. Tu regardes. Tu racontes à tes enfants les miracles et tu les fais réfléchir et toi aussi tu réfléchis et tu dis un petit peu de lumière, il enlève beaucoup d'obscurité. D'accord? Des fois tu vois pas le bout du tunnel et la lumière elle sort. Après tu vois qu'une petite lumière, tu croyais qu'elle est terminée, tu vois qu'elle s'arrête pas, elle augmente. Et tu vois que cet enfant là finalement il avance dans ses études, il réussit, après il épouse la bonne personne, après il fait des enfants, encore des autres lumières qui s'allument. Donc tu vois que le miracle de Hanouka il existe dans le réel. Ça s'appelle que t'es une bonne. Mais alors, quand quelqu'un il fait cet avoda là, c'est ça que je veux que vous compreniez, que c'est pas de la philosophie ou de la skafa, comme ça de dire bon la khinami, on a réfléchi sur un sujet qui s'appelle id bonenoud bechazdi Hashem. Non, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, aujourd'hui là comme ça 18h32, c'est l'aide, tu vas prendre à cœur de dire maintenant je vais faire une avoda de id bonenoud. Ouais, je vais pas dire merci, je vais faire une avoda de dire merci, je vais faire une avoda de construire la Emouna. À ce moment-là, la Emouna, elle est différente. Donc après, tu fais la même chose, tu reprends la même Gemara, tu la refais, la Gemara dans Hanouka, tu la refais. Ouais. Et tu refais le Hazan Obadiah sur Hanouka, refais-le, c'est bien, c'est pas grave, refais. Et refais même le Yakout Yosef, mais tu le fais dans une avoda d'être mitbonen, d'acquérir ça. Que tu dis, j'ai plus de Yirat Shamayim dans Hanouka, et j'ai plus de dévoilement dans Hanouka, et j'ai plus de lumière dans Hanouka. Alors à ce moment-là, tu peux dire Hanouka Sameach. D'accord, bravo. Le prochain cours c'est
le 18 janvier.
Donc le 18. Voilà, pas juste avant. Donc le 18 janvier, Bezant Hachem, le cours L'homme a-t-il le choix. Donc on répète que le cours est dédié à l'Einu Nishmatam de Shlomo Ben Latif, de Avraham Ben Irène, Nico Ben Irène, d'Esther Bat Aliza, de Avraham Shimon Ben Sipra, Iliyahu Ben Aisha, Yitzhak Ben Aisha, pour les gens décédés.
Amen.
Rina Bateliza. Doris Bateliza.
Doris
Bateliza. Amen. Hugo Ben Eliza. Hugo Ben Eliza. Amen. Yachem Elev dans les chambres parmi les sadiques Israël. Et à ma vie, Metim, on demande que le cours soit dédié aussi pour la réfoua Shema de Julia, Chaya, Rachel, Bat, Esther, Yehudit.
Amen. Amen.
Drusi, Dvora, Bat, Bat, Shuli, Rachel.
Amen.
Yisimcha, Bat, Flecha.
Amen.
Sandy, Bat, Stella.
Amen.
Israël ben Elisa, il faut dire amen.
Amen. Gabriel ben.
Gabriel ben.
Yael.
Ben Yael.
Amen.
Denise Nahmad
ben
Matilde. Ben Matilde. Amen.
Amen.
Karine Blanche. Frecha bat Chava Mara. Amen.
Amen.
Shaul ben Linda. Amen. Kachem envoie une réfoua chez les mains parmi tous les malades d'Israël. Chazak au barreau.
Et brigade par la